La parole parlée est la semence originelle, prêchée à Jeffersonville, Indiana, en 1962, le 18 mars. Merci, frère Neville. Tu vas faire un service de baptême entre les deux? Après que j'aurai terminé, c'est ça, oui. Bonjour, mes amis. Je suis si heureux d'être ici et ce matin, nous commencerons un peu plus tôt. Et c'est toujours navrant de voir qu'il n'y a pas suffisamment de place assise pour les gens. Je sais que c'est pénible pour vous de rester debout et j'avais annoncé pour ce matin que ce serait un moment où je tenais à avoir beaucoup de temps et je pense que ce serait vraiment gentil pendant que le service, si certains voulaient s'asseoir, que d'autres se lèvent pour permettre à chacun de se reposer un peu. Et si vous voulez sortir à l'extérieur et marcher pendant un petit moment, souvenez-vous, étant donné que le service sera long, ce sera tout à fait en ordre et puis on pourra changer de place les uns avec les autres. Et maintenant, nous savons qu'ils ont un projet de construction ici au tabernacle pour qu'on ait une église plus vaste, plus grande, où on pourra avoir suffisamment de places assises. Je pense que dans l'église ici, il y a seulement à peu près 250 ou 300 places assises et il y a probablement 100 personnes de plus que ça à l'intérieur en ce moment. Alors cela, en arrivant, j'ai vu les gens qui passaient et repassaient en voiture. Ils ne trouvaient pas où se garer dans les environs et naturellement, quand ils arrivent à la porte, qu'ils voient les couloirs bondés et le long des murs et tout, c'est bondé de gens alors partout sur l'estrade et tout. Alors ils repartent et nous voulons que tout le monde entende le message du Seigneur alors que nous nous forçons de l'apporter. Et je voudrais annoncer qu'aussitôt que je vais essayer de parler jusqu'à midi, après quoi, et je vous laisserai partir à midi, ce qui donnera à chacun assez de temps pour aller manger. Pendant ce temps, le ministre, le pasteur Franeville, ici, fera un service de baptême pendant ce temps. Et certains d'entre vous vont sortir un moment pour aller manger. Ensuite, nous reviendrons. J'essaierai d'être en chair à 2 heures précises pour poursuivre cet après-midi. J'ai été beaucoup en prière cette semaine et je ne pourrais même pas me terminé si je n'avais pas abrégé d'environ peut-être du quart ou peut-être du tiers de ce que je voulais dire aux gens. Alors, donc, nous voulons remercier de votre belle collaboration, de venir aux réunions et de ce que vous avez fait pour nous en nous aidant, en priant pour nous. J'ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à un homme, à une femme âgée qui sont, pour nous, ces frères et sœurs Kids, c'est des gens qui ont été très fidèles tout au long des années. Ils sont arrêtés en passant. Il y a quelques instants, je leur avais dit de venir, je voulais les voir une minute et quel privilège de parler à des vieillards qui prêchent l'Évangile quand j'étais encore un bébé et ce glorieux vieil Évangile est le meilleur de jour en jour, plus on approche du bout du chemin. Maintenant, des linges de prière ont été posés ici, je veux prier pour eux un peu plus tard et maintenant, courbons simplement la tête un instant pour un mot de prière.
Let us just bow our heads a moment for a word of prayer. Our Heavenly Father,
notre Père Céleste,
you said in your word,
tu as dit dans ta parole, « Si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et c'est là notre but dans la vie, c'est d'élever devant une génération de gens qui se meurent que Jésus-Christ est toujours le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et je suis si heureux de savoir que là où je vis, il y a des gens qui croient cela. Et qu'il y en a aussi des milliers qui l'ont accepté comme leur sauveur. Et nous savons qu'une fois cette vie terminée, il y aura une vie de l'autre côté qui sera tellement glorieuse que ces peines et ces quelques heures où nous traversons les pénombres, les ombres de cette vie, ici sur ce terrain où nous sommes mis à l'épreuve, nous ne faisons qu'entendre dans l'orbite de celle-là maintenant, en attendant le compte à rebours. En effet, le moment viendra bientôt où le temps de Dieu sera accompli, où le grand bras qui retenait le temps depuis si longtemps finira par lâcher prise et son Église quittera cette terre, partira dans l'espace là-bas, dans un pays où il n'y aura ni maladie, ni chagrin, ni vieillesse, ni mort. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui, Seigneur, c'est pour exprimer nos sentiments sur ces choses. Nous sommes si contents de savoir qu'il ne s'agit pas ici simplement de réunion de gens pour quelque chose d'inutile. En effet, il a été prouvé que ceci est la réalité la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Que le Fils de Dieu n'est pas mort, lui qui a fait les promesses, mais qu'il est vivant parmi nous au siècle des siècles. Et nous sommes si heureux ce matin, Seigneur, par-dessus tout, en sachant que même si nous possédions le monde et que nous puissions être jeunes pendant des centaines d'années pour en profiter, ça ne serait qu'une saison en comparaison du temps réservé à ceux qui l'aiment. Alors nous cherchons à diriger nos frères et nos sœurs vers cette grande heure qui approche. Et comme nous voyons venir ce moment-là, Seigneur, nos cœurs brûlent. Nous voulons nous préparer. Un à un, nous descendons le couloir, nous venons à peine d'inhumer une des nôtres, notre sœur Belle, qui est partie rapidement, c'est ce qu'elle avait demandé, tellement rapidement que nous n'avons pas pu venir auprès d'elle pour prier avec elle, mais elle avait demandé à partir, de voir comme tu es bon de pouvoir toutes les choses que nous désirons dans notre cœur, tu n'en laisses aucune de côté. Tu l'as promis. Maintenant, nous te prions d'amener les cœurs à te comprendre aujourd'hui, ceux qui ne te comprennent pas. Amène les pécheurs à la repentance. Amène les malades à connaître Dieu par la guérison. Ô Dieu, bénis tes saints et attache-les les uns aux autres par les liens du cœur. Et alors que ces enregistrements iront dans les villes et dans les églises, partout, vers les nations tout autour du monde, puissent les frères dans le ministère qui autrefois avaient peut-être mal compris, comprennent maintenant, afin que ton Église puisse être préparée. Et maintenant, ô Seigneur, toi qui m'as séparé de ma mère, toi qui m'as nourri tous les jours de ma vie, tu m'as fait arriver jusqu'à cette heure. Par ta grâce, comme j'ai le sentiment que c'était ta volonté que j'explique aux gens pourquoi je me suis comporté et pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Puisse-la être apportée de manière à ce que les gens comprennent mieux, Seigneur, la singularité de tes serviteurs. Accorde ces choses, Père, et ces passages de l'Écriture et ce texte et ces mots que nous avons écrits ici pendant cette semaine où nous avons été en prière et en étude, puissent-ils tomber dans la bonne terre partout où ils seront entendus? Une terre qui pourra les garder et les nourrir, et alors toute la louange t'en sera donnée, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Pour les gens qui sont dans les voitures, qui ne peuvent pas entrer, j'attache maintenant un petit instrument. Mettez votre radio à la position 1150, et vous pourrez entendre le message directement à la radio dans votre voiture. Bon, ceci, est-ce que c'est la connexion? C'est en marche, n'est-ce pas, pour les enregistrements? Maintenant, je dirais à tous mes amis, ici, aussi bien que partout où ces enregistrements iront, J'estime que je dois aux gens une explication. Sur beaucoup de choses que j'ai dites et que j'ai faites. Tant de fois, des gens sont venus me voir en disant, notre pasteur dit, pourquoi donc feriez-vous cela, frère Branham? Pourquoi avez-vous dit ceci? Et qu'est-ce qui vous fait agir comme ceci? Ah, c'est de tout mon cœur que j'ai fait tout ce que j'ai fait, et pour autant que je sache, avec les meilleures intentions, et tout ce que j'ai dit, je l'ai dit du fond de du cœur. Et je l'ai fait dans un but. Et je vais essayer ce matin, avec l'aide de Dieu, d'expliquer par la Bible quel est le but et pourquoi j'ai fait ces choses. Et maintenant, il y a peut-être dans un groupe de gens aussi nombreux, il y a probablement un grand nombre de ministres assis ici. Et il y en aura un grand nombre qui écouteront ceci. Et j'aurais bien voulu qu'on ait assez de temps pour présenter tout ce qui m'était venu à l'esprit et que j'avais reporté aux Écritures, ou plutôt fait ressortir des Écritures pour les gens. Mais je dirais à mes frères que même si vous avez pu être en désaccord avec moi, maintenant je parle à la fois ici pour les bandes, vous avez pu être en désaccord avec moi et beaucoup à cause de ma position à l'égard de ce que je crois être juste. Et vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, car il se peut que vous voyez la chose différemment. Mais j'espère que moi, avec l'aide de Dieu, ce matin, je pourrai vous montrer la raison pour laquelle j'ai pris cette position. Et je n'ai jamais... Il m'est arrivé souvent de réprimander des églises, des dénominations, l'habillement des femmes, la conduite des hommes. Je pense que je me suis entièrement fondé sur les Écritures pour ça. Et pas une seule fois, Dieu connaît mon cœur, je n'ai eu un sentiment hostile envers qui que ce soit. Ils avaient beau être en désaccord avec moi autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, peu importe, je les aimais quand même. Et tant que j'aurai l'Esprit de Dieu en moi, j'aimerai toujours son Église, son peuple, peu importe ce qu'ils font ou comment ils me traitent, ça n'y changera rien, je les aime quand même. Je me rappelle une fois un homme du nom de Moïse. Continuellement, les gens de l'époque, selon notre expression du Sud, nous, on dirait qu'ils l'exaspéraient. Ils ne lui donnaient jamais le temps de souffler. Continuellement, c'était toujours de murmurer ou de se plaindre, et ainsi de suite. Mais Moïse, quand on est venu au fait que Dieu a dit « Sépare-toi du milieu d'eux, parce que c'est avec toi que je vais fonder une nation », Moïse s'est jeté au travers du chemin de la colère de Dieu. Il a dit, « Prends-moi et non le peuple. » Ceux qu'il avait appelés des rebelles, en rébellion contre Dieu et contre lui. Malgré tout ça, il les aimait tellement qu'il a dit, « Prends-moi et sauve-les. » C'était Christ en Moïse. Et si un homme, peu importe combien un autre peut être en désaccord avec lui, s'il n'a pas ce sentiment-là, alors, il y a un manque de Christ, je crois. Si du fond de son cœur, pas de ses lèvres, mais de son cœur, s'il n'a pas ce sentiment-là à l'égard de l'humanité, ce n'est pas simplement pour faire un peu d'humour en ce moment, mais voici quelque chose qui m'avait beaucoup frappé une fois. Il y avait une réunion à Chicago et un homme de couleur était assis là et il répétait constamment « Je voudrais voir le docteur Branham ». Il portait un énorme chapeau, des croix énormes de 8 ou 10 pouces, de long et de large, qui lui couvrait la poitrine, des vêtements sacerdotaux, un accoutrement vraiment étrange avec des drôles de bagues et un chapelet, et ainsi de suite. J'ai dit à Frère Baxter, c'était mon associé, dis-lui, fais-le venir dans la pièce, je vais le voir. Il s'est assis avec moi, il a dit, dois-je m'adresser à vous en vous appelant père, ou en vous appelant révérend, ou en vous appelant ancien? Ou comment devrais-je m'adresser à vous? J'ai dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Et donc, par respect, il l'a fait. Et il m'a donné son titre, lequel, oh, il me faudrait plusieurs lignes pour mettre ça sur papier, les titres du nom de l'Église et son titre à lui dans cette Église. Mais il a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, je m'intéresse à ceci, frère Branham, Il m'a dit ce à quoi il s'intéressait dans son église et tout ça, il a dit. Je m'intéresse à une seule race. Et c'est la race humaine. J'ai dit, là-dessus, nous pouvons nous serrer la main. La race humaine, tout le monde, de tout credo, de toute couleur, toute personne pour laquelle Christ est mort, voilà ce qui m'intéresse. Et je me suis efforcé de toujours m'y intéresser, intéresser. Maintenant, je voudrais lire. Et puis simplement, je n'ai pas l'intention de prêcher parce que j'en aurais probablement pour au moins, avec ce que j'ai à dire, j'en aurais probablement pour 4 ou 5 heures. Donc, au bout d'à peu près 2 heures, alors nous ferons relâche. Nous irons manger, puis nous reviendrons vers 2 heures. Soyez ici avant 2 heures parce que je voudrais commencer à 2 heures précises. Soyez ici vers 1 heure et demie, si possible. Alors, nous serons sortis. Attends pour ce soir. Je dois partir cet après-midi même pour Tifton, en Géorgie, où je dois faire un service demain soir à la salle de l'école secondaire là-bas, juste un service de prédication. Et ensuite, à partir de là, je ne sais pas simplement où il me conduira. À partir de là, il y a bien des endroits. Il y a Frère Arganbright et les autres qui ont appelé d'outre-mer pour commencer une tournée là-bas, partout dans l'Ouest, jusqu'au Canada, tout autour du monde. Mais je crois que vous saurez plus à quoi vous en tenir après que j'aurai terminé, si Dieu veut bien m'aider à vous le donner de la même manière que cela m'a été donné. Alors, après le service, vous comprendrez, j'espère. Et alors, s'il y a une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, je vous demanderai d'apporter vos livres et alors, vous qui avez des magnétophones, vous pourrez vous procurer les bandes pour les avoir chez vous, vous asseoir avec un cœur ouvert, c'est tout. Préparez tout ça, dites Seigneur, je suis bien détendu maintenant. Je vais écouter. Ensuite, quand quelque chose vous frappe, arrêtez le magnétophone et prenez le passage de l'Écriture. La Bible dit, Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, voyez. Alors, parcourez l'Écriture pour voir si tout est bien conforme. Maintenant, je voudrais ouvrir, pardon, juste ici. Il me montrait les différents micros à utiliser. Il y en a tellement ici ce matin, je ne sais pas par où commencer. Maintenant, prenons l'écriture. Je vais commencer dans la Genèse et ce soir, je termine dans l'Apocalypse. Moi, je crois à la parole. Genèse, en commençant au chapitre 1, j'aimerais lire un passage de la parole et maintenant, si quelqu'un le désirait, que quelqu'un voulait prendre les. Si vous avez vos crayons et vos papiers et tout, parce que j'ai beaucoup de passages de l'Écriture, je voudrais lire ces passages de l'Écriture, m'y rapporter continuellement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, s'il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait étendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela les étendues ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent dans ce lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appelle l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et des herbes et de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce en ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes et ce qui protège de la semence selon son espèce, et des arbres donnèrent du fruit en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, Il y en eut un soir, il y en eut un matin, et ce fut le troisième jour.
After his kind, and God saw that it was good, and the evening and the morning were the third day. Now,
maintenant,
I want to
ce matin, je voudrais aborder ce qui va me servir de sujet, c'est-à-dire ceci. La parole parlée est la semence originelle. Maintenant, c'est ce que je voudrais prendre comme sujet. La parole parlée est la semence originelle. Maintenant, si vous remarquez, Dieu a dit qu'elle produise selon son espèce. Peu importe ce que c'était, il fallait que ce soit produit selon son espèce. Or, cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, comme il est infini, il ne peut pas prononcer quelque chose et puis après modifier cela pour autre chose, pour une décision meilleure. En effet, chaque décision de Dieu est parfaite. Il ne peut pas, après que sa parole a été prononcée une fois, elle ne peut jamais mourir. Elle continue et continue et continue à vivre et ne peut jamais mourir parce qu'elle est Dieu. Sa parole ne peut pas plus mourir que lui ne peut mourir. C'est pour ça que nous lisons dans 1 Jean ou dans Jean chapitre 1, ceci, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. La même parole qui avait été prononcée au commencement avec les desseins éternels qu'il avait, elle est alors venue et elle a été faite chair et a habité parmi nous, la parole de Dieu. Il y a quelques années, on m'a raconté qu'une femme, or ce récit n'est peut-être pas authentique, elle aurait passé sa langue sur du radium au moment où elle mélangeait ça pour en mettre sur des aiguilles de cadran, d'horloge et de montre, cette femme en est morte. Et des années plus tard, comme ils avaient gardé son crâne pour un genre d'autopsie, ils disaient qu'on pouvait prendre des instruments, ce dont ils se servent pour ça, et appliquer ça sur l'os du crâne, il y avait un grondement. On pouvait encore entendre ce radium toujours actif dans son crâne. Après qu'elle était morte depuis des années, le radium est continuellement actif. La parole de Dieu est continuellement active. On m'a dit que si nous pouvions avoir l'instrument capable de le capter, que la voix d'un homme, ma voix, avec laquelle je m'exprime aujourd'hui, dans 10 000 ans, on pourrait encore la capter dans l'air. C'est comme laisser tomber un pétale au milieu d'un étang. Les minuscules vaguelettes, après qu'elles ne se sont plus visibles à l'œil nu, elles continuent jusqu'à ce qu'elles atteignent le bord. De même, l'onde de nos voix voyage continuellement tout autour du monde. Ainsi donc, notre voix, ce que nous disons, c'est ce qui nous jugera. Notre témoignage s'élèvera lui-même contre nous. Nos voix retentiront elles-mêmes dans nos oreilles au tribunal du jugement de Dieu. Quand son grand instrument captera chaque voix qui s'est fait entendre, chaque parole qui a été marmonnée, et maintenant, il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter cette voix qui est mauvaise, c'est de se repentir. Dieu seul peut l'arrêter, sinon elle poursuit son chemin et vous y serez confrontés dans l'éternité. Par conséquent, Dieu, comme il est parfait et que sa voix est éternelle, c'est sa voix à lui qui devra être là pour la rattraper. Par conséquent, il faut qu'il soit parfait dans chaque décision. Car une fois qu'il dit quelque chose, cela doit aller jusqu'au bout et revenir au jugement. Maintenant, si vous montrez très compréhensif, ou du moins si vous essayez de l'être, vous verrez pourquoi j'ai toujours pris position pour la parole de Dieu comme je l'ai fait. C'est parce que toutes les autres choses devront périr. Dieu est éternel et sa parole est éternelle. Maintenant, alors que vous étudierez, et je vais tâcher de parler aussi longuement que possible pour que vous saisissiez mes paroles, et je les fais aussi à cause des bandes. En effet, il faut que vous sachiez que cette Bible, c'est la parole de Dieu. Or, nous savons que nous viendrons. À un jugement, que la voix de Dieu nous rattrapera quelque part parce qu'il a été donné à chaque être mortel de l'entendre. Les ministres sont responsables de l'apporter. Et si cette voix de Dieu doit rattraper chaque personne, alors, vous devez l'entendre. Sois ici, sois au tribunal du jugement. Donc, si c'est l'Église qui a la voix de Dieu, alors vous devez écouter la voix de l'Église, comme nous le disent les catholiques romains. Et eux-mêmes, ils sont dans une telle confusion et ont tant de divergences doctrinales, les Romains, les Grecs et les différentes espèces, qu'il ne peut y avoir là aucun fondement pour la foi. En effet, laquelle est l'Église? Est-ce que c'est l'Église romaine qui a raison ou bien l'Église grecque qui a raison? Ou bien certaines des autres églises qui ont raison? Est-ce que ce sont les luthériens qui ont raison, les baptistes qui ont raison, les méthodistes qui ont raison, les presbytériens qui ont raison? Ou bien qui a raison alors qu'elles ont tant de divergences entre elles? Elles sont éloignées l'une de l'autre autant que l'est éloignée de l'ouest. Mais à mon avis, c'est la voix de Dieu qui est le juge. Donc, la voix de Dieu, et si elle est à ce point parfaite, elle doit provenir d'une ressource parfaite. Et si, à cause de leur divergence dénominationnelle, les hommes l'apportent l'une d'une manière, l'autre d'une autre, et dans ce cas, il n'y a aucun moyen d'ancrer sa foi dans ce qu'ils disent. J'espère que c'est clair. Vous voyez? En effet, si l'un dit que c'est comme ceci, que l'un dit « vous devez adhérer à cette église-ci », il n'y a de salut que dans cette église-ci. Ça, c'est la version catholique. Les luthériens arrivent, ils disent que c'est eux le chemin. Les méthodistes rappliquent avec autre chose. Les baptistes avec autre chose. Les pentecôtistes avec autre chose. Il semble y avoir un si grand ramassis de confusion. Alors, quand on présente cette parole écrite à nos frères, beaucoup d'entre eux disent, « Eh bien, ces jours-là, ce n'est pas pour maintenant. » Un autre dit, « Ce n'est qu'un récit historique. » L'autre dit, « C'est un recueil de poèmes. » L'autre dit, « L'Église a le droit de modifier ça. » Alors, à quoi peut-on s'en tenir? Sur quoi peut-on faire reposer sa foi? Puisque Dieu est éternel, je crois que si nous devons être jugés, il en est toujours été ainsi. Si nous devons être jugés par quelque chose, ce sera par la parole de Dieu qui a donné la commission. Donc, si nous devons être jugés par cette parole, alors Dieu serait un Dieu injuste de placer une telle confusion sur la terre et que la pauvre pensée humaine soit tellement déroutée qu'elle ne sait pas quoi faire. Et l'un va adhérer à ceci, ensuite adhérer à cela. Un pauvre homme qui s'efforce de réfléchir, il s'efforce de trouver l'endroit qui convient. Il va écouter cette dénomination-ci, ensuite il va écouter une autre dénomination. Celle-ci semble meilleure que celle-là. Il va y aller. Et avant longtemps, il est encore revenu à la première. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Mais si Dieu va juger le monde par quelque chose, ce sera par sa parole. Je crois cela. Et maintenant, mes frères, maintenant, quand je dis ça, je ne m'adresse pas seulement au petit groupe qui est ici ce matin, mais je m'adresse aux endroits où ces bandes seront envoyées partout dans le monde. Je voudrais que vous me supportiez patiemment pendant quelques instants et que vous réfléchissiez à ça, qu'il faut que quelque part où on vienne à un jugement. Et puis, il y a ceux qui disent, c'est la version du roi Jack ou telle autre version. Et maintenant, ils font une version en langue courante ou quelque chose comme ça. Et je crois que si Dieu est le Dieu souverain qu'il est, l'Éternel, c'est lui qui doit y veiller. C'est lui que ça regarde. Si je veux aller au ciel, chez lui, c'est à lui de me fournir un endroit où je saurai ce qu'il faut faire. Là où on peut poser sa main et dire, ce qu'il faut, c'est ceci. Êtes-vous d'accord là-dessus? Il faut, c'est lui que ça regarde. Il serait injuste si je disais, Seigneur, j'étais luthérien. Et que l'autre disait, eh bien, moi, j'étais catholique. Eh bien, là, vous en avez deux en contestation l'un contre l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un pauvre homme peut faire? Eh bien, qu'est-ce qui se passe si l'Église catholique qui a raison? Alors, tous les luthériens sont perdus. Mais si ce sont les luthériens qui ont raison, tous les catholiques sont perdus. Vous voyez, il faut que vous ayez un endroit là où la foi puisse reposer. Et à mon avis, je ne sais pas quel est votre sentiment à vous là-dessus, mais à mon avis, la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et je crois que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'il n'y ait pas une seule ponctuation qui ne soit à sa place. Ma fille là-bas, Rebecca, disait, « Papa, à l'école, on a prouvé que ce monde est vieux de millions et de millions d'années. Alors, n'est-ce pas en contradiction avec la Bible? Ah non, j'ai dit pas du tout. Eh bien, elle a dit ici, si les différentes études des rochers, des formations, des stalactites et des stalagmites, et ainsi de suite, prouvent qu'il y a juste une stillation des millions d'années alors que Dieu a dit qu'il avait fait les cieux et la terre en 24 heures. Est-ce que ça ne prouve pas la fausseté? Ne démontre pas la fausseté de la Bible? J'ai dit non. Si vous remarquez, Dieu, quand il a parlé à Moïse de la Bible, il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Combien de temps cela a pris? Ce n'est pas notre affaire. Ce qui vient ensuite, c'est qu'il présente le temps où il a mis les semences dans la terre, mais au commencement, ça a peut-être pris des centaines de milliards de millions d'années, une période de temps incommensurable, mais Dieu créa les cieux et la terre. Point. Ça règle la question, c'est la première étape, voyez. Il ne fait pas d'erreur. Paul, le grand prédicateur, disait, il a dit à Timothée, étudie pour faire tes preuves, en dispensant droitement la parole de Dieu. Étudie-la avec sincérité. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Maintenant, comme ma foi est fondée sur la parole, alors je ne peux accepter une interprétation particulière, puisque la Bible déclare que la Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Maintenant, ça, l'Esprit vient juste de le révéler. Je connaissais le passage de l'Écriture, mais en ce moment, je ne sais plus exactement où il se trouve dans l'Écriture, mais vous qui prenez des notes, vous allez trouver, je pense que c'est dit dans Pierre, la Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Par conséquent, si l'écrivain inspiré l'a dit et que c'est faux, alors combien d'autres passages sont faux? Ou bien elle est toute vraie, ou bien elle est toute fausse. Il ne peut pas en être autrement. Alors, eh bien, quant à l'Église, vous dites, eh bien, alors l'Église, non. Si vous vous fiez à l'Église, alors quelle Église a raison? Quelle Église a raison? Voyez, vous devez encore revenir à quelque chose sur quoi la foi peut reposer. Et la mienne, elle se fonde sur la parole de Dieu en croyant que cette Bible est le programme de Dieu pour les gens. Elle l'a toujours été. Jésus a dit, les églises doivent s'accomplir. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans les Écritures. Maintenant, retenez bien ça pendant que vous aurez la bande. Là, à la fin des bandes, vous verrez que je vais encore y revenir. Tout ce qui se trouve dans les Écritures doit s'accomplir. Maintenant, je vais laisser mon auditoire s'imprégner de ça pendant un instant. Voyez, tout ce qui se trouve dans les Écritures doit s'accomplir. Alors, si Dieu a dit quelque chose, voilà, cela doit s'accomplir. Ou sinon, ce n'est pas la parole de Dieu. Et dans ce cas, si ce n'est pas la parole de Dieu, alors, où en sommes-nous? Allons vers quelque chose qui ressemble à Dieu ou tout ce qu'on aura envie de faire, comme la Bible dit, mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain nous mourrons, voyez. Or, si ce n'est pas la parole de Dieu, dans ce cas, nous sommes tous perdus. Et si c'est la parole de Dieu, Dieu est absolument tenu d'y faire honneur. Le Dieu qui dérive tout honneur, qui est le commencement de tout honneur, qui est la source de tout honneur, qui est la source de toute vérité. Il doit s'en tenir à ce qu'il dit. Et si ceci, ce n'est pas la parole de Dieu, dans ce cas, qui est Dieu? Où est Dieu? Ou bien, est-ce qu'il y a un Dieu? Oh, vous dites, Frère Branham, je le sens. Oh, les païens peuvent vous dire la même chose de leurs idoles. Les voyages ont un impact sur vous quand vous le voyez vous-même. Donc, je crois que je pourrais regarder et voir ceci. Oui, je crois que si. Je crois que parce que j'ai été changé comme ceci, parce que c'est pareil pour moi. Mais souvenez-vous, les païens font la même chose. Voyons, la moralité de l'Afrique confondait certaines tribus de là-bas, ferait honte aux Américains d'ici qui se disent chrétiens. La moralité de la décence qu'on trouve au milieu des gens qui adorent des idoles païens. Alors peut-être que c'est ça qui est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, quand vous regardez la chose en face, le champ des points à traiter est immense. Alors, il faut que vous puissiez revenir quelque part, quelque chose sur quoi vous pourrez poser la main. Maintenant, considérons les prétentions des luthériens. C'est un échec. Considérons les prétentions des catholiques. C'est un échec. Considérons les prétentions des baptistes, des pentecôtistes. C'est un échec. Alors, vous ne pouvez mettre aucune confiance en elles. Par contre, il n'y a pas une seule chose écrite dans cette Bible dont Dieu n'est pas prouvé par quelqu'un que c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité. Comme je l'ai souvent dit, peut-être que ma foi ne peut pas grimper jusqu'où Enoch a grimpé, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quiconque pourrait grimper jusque-là. Une grande foi. Maintenant, je suis en train de donner le contexte, les raisons pour lesquelles je crois la Bible, et c'est de là que je tire mon sujet. Maintenant, la prochaine chose que je tiens à dire, c'est que je ne crois pas que la Bible se contredit. J'ai adressé un défi partout dans le monde à quiconque affirme une telle chose de venir me le prouver. Vous voyez? Venez le prouver. La Bible ne se contredit pas. C'est vous qui contredisez la Bible. Dieu ne peut pas se contredire. S'il le fait, alors il n'est pas Dieu. Et si cette parole est Dieu, alors si elle est contradictoire, alors vous faites de Dieu quelqu'un qui se contredit. Alors, où est votre Dieu dans ce cas-là? C'est là que ça se corse, que ça se complique, n'est-ce pas? Si Dieu se contredit, il ne vaut pas plus que moi, ou pas plus que vous, puisqu'il peut se contredire. La parole est là, mais elle est cachée aux yeux des sages et des intelligents. Voilà pourquoi quelqu'un dira que Matthieu 28, 19, où il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Acte 2, 38, où il est dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. » Il y a une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Tous ceux qui ont jamais été baptisés doivent être baptisés au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas été baptisé en employant le nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez été baptisé dans des titres qui se rapportent à un nom. Si c'est là, si cette révélation-là n'est pas la bonne, alors la Bible serait dans l'erreur. Dans ce qu'elle a fait, quand tous baptisaient au nom de Jésus-Christ. Mais si la Bible a baptisé, que tous les apôtres, tout au long de l'âge, baptisant au nom de Jésus-Christ, après que Jésus leur avait donné la commission de baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, alors la Bible se contredit carrément. Mais si vous regardez ce qu'il y en est, ce n'est pas ça. Ils ont fait exactement ce qu'ils avaient dit. Pas des titres, mais le nom. Donc, il n'y a aucune contradiction. Je pourrais vous en sortir encore beaucoup ici. Je les ai même notés, des passages dont les gens disent qu'ils se contredisent. Ça fait 25 ans, presque 30, maintenant que je me demande que quelqu'un me les montre. Il n'y en a pas, non, monsieur. Ce qu'il y a là, c'est la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et notre foi repose là-dessus, sur ce que Dieu a dit. Ne cherchez pas à l'interpréter. Dites-le simplement comme elle le dit. N'ajoutez aucune interprétation particulière et je crois qu'il n'y a absolument rien d'autre. Maintenant, j'espère que même si c'est blessant, ce n'est pas malveillant, j'essaie d'exprimer pourquoi moi je crois que ce que je crois et ce qui m'a fait agir comme ce que je l'ai fait dans les choses que j'ai faites. J'essaie de m'ouvrir au monde, de montrer que si j'ai agi ainsi, c'est par conviction. Je crois que toute parole ajoutée à cette Bible, quiconque est coupable d'avoir fait ça, sa part sera retranchée du livre de vie, Apocalypse 21. Quiconque ajoutera quelque chose à ceci ou retranchera quelque chose de ceci, je ne crois pas qu'il y ait aucun credo, aucun dogme, ni rien d'autre que la parole littérale de Dieu qui soit le plan de Dieu. Tout le reste est un péché et ne restera pas impuni, et sera éternellement perdu. Tout homme, tout credo, toute dénomination, ou quoi que ce soit, qui ajoutera quelque chose ou retranchera quelque chose d'une seule ponctuation de cette parole. Dieu n'est pas un Dieu d'hier qui aurait écrit un livre et l'aurait remis entre les mains d'un groupe d'hommes et qu'on ne s'y retrouverait plus ni rien et ensuite il jugerait le monde d'après ce livre-là. Mais le Dieu qui l'a écrit, il vit en elle, et il confirme sa parole. Maintenant, en étudiant les bandes, cette observation-là, je voudrais que vous l'étudiez très attentivement, voyez. Donc, j'ai commencé dans la Genèse, maintenant, j'en suis à l'Apocalypse. J'ai rassemblé tout ceci pour montrer que c'est la parole de Dieu. L'Apocalypse dit que quiconque en retranchera quelque chose ou y ajoutera quelque chose, il lui sera retranché sa part. Du livre de vie, je vais prendre le passage de l'Écriture, le citer tout à l'heure, Apocalypse, le dernier chapitre. Donc, le chapitre 1, il montre quoi? Qu'est-ce que la parole? Donc, elle est éternelle. On ne doit pas l'altérer, y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit, voyez? On ne doit pas l'altérer. Dieu veille à cela. On ne doit pas y ajouter, rien n'y est ajouté. On ne peut rien en retrancher parce qu'elle est éternelle, voyez? Bon, maintenant, pour servir de base, pour vous montrer ce que j'essaie de dire, qu'entre les deux, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle ne se croisera avec rien. Maintenant, c'est là que nous ne serons pas du même avis à partir d'ici jusqu'à cet après-midi, 5 heures. Vous voyez? C'est là que nous ne serons pas du même avis. Combien seront d'accord que ceci, c'est le livre du jugement de Dieu, que nous serons jugés d'après la parole de Dieu? On ne doit rien y ajouter, ni rien en retrancher. Alors, pourquoi l'a-t-on fait? Maintenant, nous en venons à la question. Pourquoi l'a-t-on fait de façon si grossière? Maintenant, c'est ce que nous allons voir entre la Genèse et l'Apocalypse. Tout le monde jusqu'à notre époque à nous et dans les autres époques. Maintenant, permettez-moi si bien d'éclaircir cela à cause des bandes, après vous avoir déclaré pourquoi je crois la parole et ce que Dieu en a dit, et qu'on ne doit ni y retrancher, ni y ajouter quoi que ce soit, en retrancher quoi que ce soit. Maintenant, je voudrais entendre en profondeur dans le contexte de ce long sujet que j'ai préparé pour vous expliquer et vous montrer ce qui s'est passé. Alors, vous verrez pour quelles raisons je crois ce que je crois. Voyez? Donc, elle ne peut pas se croiser. Elle ne s'hybridera pas avec quoi que ce soit. Elle ne s'hybridera pas. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'hybridation des animaux, du maïs, du blé, pour que ça donne un produit plus beau, mais il ne vaut rien. Il est pourri. Il n'a pas de vie dedans. Il meurt. Il ne peut pas se reproduire. Il est mort. En effet, tout ce que nous avons sur Terre aujourd'hui, qui est sous sa forme originelle, est une parole parlée de Dieu. Voilà pourquoi le mulet, un animal bâtard issu d'un croisement, ne peut pas se reproduire à son tour. Dieu a fait le cheval, il a fait le mulet, ou fait l'âne. Croisez ces deux-là et vous aurez un mulet. C'est un hybride. Par conséquent, il ne peut pas se reproduire à son tour. Or, nous allons en venir à la semence du serpent un peu plus tard. Il ne peut pas se reproduire à son tour. Maintenant, ne perdez pas de vue mon sujet. La parole parlée, la semence originelle. Or, c'est ce que je veux prouver. Prenons simplement Matthieu 24, 35 un instant et nous allons sonder ces passages de l'Écriture pendant un moment et je verrai combien de temps nous avons devant nous. Je voudrais lire ici une parole de Jésus dite Matthieu 24 et le verset 35 au chapitre 24, verset 35. Pour montrer combien cette parole est éternelle, comme nous le disons, en vérité, 34, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, peut-on y mélanger quoi que ce soit alors? Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 19, j'aimerais lire ceci. Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 19. Voyons ce qui est dit ici. Commençons au verset 18. Je les déclare à quiconque. Maintenant, souvenez-vous à partir de la Genèse où il a prononcé la parole, voyez. Je les déclare à quiconque, qu'il soit prêtre, pape, évêque, surveillant général ou quoi encore, entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Qu'en est-il de vos dogmes? Qu'en est-il de vos credos contraires à l'Écriture que vous écoutez de toutes les dénominations? Pas une seule d'entre elles n'est exemptée. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles en disant que ce n'est plus ce que c'était, vous savez, vous voyez, tranche parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Il aura beau être prédicateur, voyez-vous, il aura beau être un membre d'Église toute sa vie, il aura beau être évêque ou pape, quiconque retranchera une parole de ceci. Une seule parole. Vous rendez-vous compte que c'est d'une seule parole qu'Ève a douté, ce qui a causé toutes les ennuis? Ève a douté de la vérité d'une seule parole parlée de Dieu. Et ceci qui a causé toutes les maladies, toutes les maux, toutes les bébés souffrants, tous les hôpitaux qui ont été construits, toutes les opérations qui ont jamais été pratiquées, toutes les morts, tout ce qui a connu la mort, c'est à cause d'une seule personne qui a cru une, qui a été incrédule à l'égard d'une seule parole. Voilà. Qu'est-ce qu'Ève a essayé de faire? De l'hybrider, de la croiser avec quelque chose. Vous devez la prendre telle que Dieu l'a prononcée. Elle ne se croisera avec rien. Non, monsieur. À un moment donné, Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, on m'a dit qu'un grain de moutarde ne s'hybride pas. On ne peut pas le croiser avec quoi que ce soit. On peut croiser d'autres grains, mais le grain de moutarde, on ne peut pas le croiser, voyez-vous, parce qu'il ne s'hybride pas. Et si vous avez cette sorte de foi-là, c'est-à-dire une seule, de prendre une seule parole de Dieu, c'est là que tant d'évangélistes flanchent. Nous allons y venir plus tard. Alors qu'ils disent, « Oh, nous croyons ceci, et c'est ce qu'ils vont prendre. » Ils croient cette parole-là et ils ne peuvent le faire agir. Mais qu'en est-il de l'autre qui est juste à côté? Heureux celui qui observe tout ce qu'il a ordonné. Tous ses commandements, voyez, celui-là aura droit d'entrer dans l'arbre de vie, dehors les enchanteurs, les chiens, les impudiques, et ainsi de suite. Bon, malgré que Jésus ait un auditoire mixte, j'ai beaucoup de commentaires ici qui sont vraiment très directs. Donc, je voudrais, les sœurs, que vous compreniez, voyez-vous, que vous le compreniez bien. Alors, voilà pourquoi nous le croyons, et c'est bien là la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est originelle. Et tout ce que Dieu a créé par la parole est originelle. Et on peut hébrider une partie de sa création qui est secondaire. C'est pour ça qu'Ève a pu faire ce qu'elle a fait avec sa semence à elle, parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originelle. Elle est un produit dérivé de l'homme. Elle ne fait pas partie de la création de Dieu. Dieu a tout créé, après quoi il a pris une partie de ses créations, il a fait une aide. C'est pour ça qu'on peut hybrider un âne et un cheval, mais ça ne durera pas, c'est la mort. Par contre, ce qui est original a la vie. Elle se reproduit. J'espère que vous le voyez maintenant. C'est ce qui est originel, qui a la vie. Alors, c'est pour ça que je pense que les sectes, les dénominations et les organisations meurent. L'histoire le prouve, elles sont toutes mortes. Elles ne se sont plus jamais relevées. Elles ne se lèveront jamais. Elles ne peuvent pas se reproduire à leur tour. Elles n'ont rien en elles pour se reproduire. Elles sont stériles. Voilà pourquoi les enfants d'Ève meurent. Je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici, mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. C'est vrai. Tenez-vous-en à la parole. Maintenant, souvenez-vous, chaque parole parlée de Dieu est la semence originelle. Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. Et tant que vous en tiendrez à la semence originelle, elle se multipliera et elle se reproduira de nouveau. Hybridez-la, elle mourra. Et Ève, la femme, a été la première chose hybride qu'il y ait jamais eue. Maintenant, j'espère que vous n'arrêterez pas la bande tant que nous n'aurons pas vu à bien prouver ça. Tout à l'heure, voyez-vous, à bien vous montrer le pourquoi. Elle était une hybrideuse, une épouse. Remarquez, cela a produit la mort, d'essayer de prendre la parole de Dieu et de la croiser avec de la sagesse. Voyez, vous ne devez pas faire ça. Que oui ou non, vous croyez qu'elle vous ayez la sagesse pour l'expliquer, dites seulement, Dieu l'a dit, alors c'est réglé, c'est Dieu qui l'a dit, un point, c'est tout. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, laissez-la tranquille, mais dites simplement, c'est exact, parce que c'est Dieu qui l'a dit, voyez, c'est ça, Dieu l'a dit. Maintenant, remarquez alors, elle ne se croisera pas, on ne doit pas l'altérer. Dieu punira celui qui le fera. Elle ne s'hybridera avec rien d'autre. Elle est la parole de Dieu. Elle seule. Dieu n'a pas besoin de votre parole ajoutée à la sienne. Nous ne devons pas prononcer notre parole à nous. Nous devons prêcher sa parole. La parole de Dieu. Par conséquent, donc, la vie véritable peut uniquement venir ou se reproduire par la reproduction de sa semence originelle. Vous voyez la vie maintenant? Maintenant, étudiez bien ça quand vous étudierez les bandes. Étudiez-le maintenant. La vie, V-I-E, peut uniquement être reproduite par la reproduction de sa semence originelle. Comme elle était au départ, alors elle se reproduira. Voyez, sinon il s'agit d'une semence hybridée, elle s'éteindra. Certaines s'éteignent à la première génération, voyez, elles sont finies déjà là. Elles ne tarderont pas à se dégénérer. Elles ne peuvent pas produire la vie qu'il faut parce qu'elles sont hybridées. Dans Genèse 1:11, la Bible dit, Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Or, une fois que Dieu l'a dit, c'est réglé. C'est réglé toujours que chaque semence produise selon son espèce. De les croiser produise une super récolte. C'est une super récolte de quoi? Maintenant, écoutez. Lâchons l'accélérateur de les croiser. J'essaie de me retenir. Ce sont tous des sujets sur lesquels je pourrais prêcher, mais j'essaie de me retenir de le faire. De les croiser produirait une super récolte. Les preuves sont là. Mais quelle sorte de récolte? Une récolte de fausseté, de mort. Hybridez votre maïs, cela produira une grosse récolte. Une récolte meilleure, de plus belle apparence. Mais elle est morte. Plantez-la à son tour. Elle ne peut pas se reproduire. C'est terminé, c'est fini. Comme Ève. Voyez-vous? Elle a produit une récolte hybride. Regardez de quoi nous avons l'air aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour constater que c'est vrai. Oui, voyez certainement qu'elle l'a fait. Ce n'était pas le dessein de Dieu. Non, monsieur, il faut vraiment que je me retienne parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en ce moment. Voyez, de les croiser produit une récolte hybride. Et une récolte hybride est une récolte morte. Pour ce qui en est de se reproduire, elle ne se reproduira pas. Elle ne le peut pas parce que Dieu l'a dit. Il faut qu'elle produise selon son espèce et vous l'avez croisée. Maintenant, vous pouvez voir là ce qu'il en est de l'Église, comment cela va finir. C'est là qu'elle meurt, car elle ne peut pas produire selon son espèce. Pourquoi? Elle a été croisée. Vous ne pouvez rien faire avec elle. Elle est morte. Elle est finie. Bien. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil. L'occasion de recevoir la parole. Ainsi, le Dieu souverain au jugement. Le groupe de John Wesley se lèvera et ces méthodistes empesés d'aujourd'hui auront des comptes à rendre. Luther se lèvera. Les catholiques se lèveront. Ceux qui ont succédé à Irénée, Martin, Polycarpe et ceux de l'époque, ils devront subir le jugement pour avoir hybridé la parole de Dieu avec des dogmes. Ce groupe de luthériens qui sont venus après le réveil de Luther rendront compte de la même chose. Le groupe qui s'est amorcé chez les baptistes, ceux qui sont venus après le réveil de John Smith feront la même chose. Ceux du groupe d'Alexandre Campbell feront la même chose. Et les pentecôtistes feront la même chose. Ce réveil originel au moment où le Saint-Esprit est descendu, qu'il a appelé un peuple à sortir, que Dieu essayait de leur donner sa parole. Ils se sont organisés, ils se sont installés là. Ils ont formé une dénomination et c'est là qu'ils sont morts. Vous dites, mais regardez tout ce qu'ils font, ça, nous allons y venir dans un peu plus tard aujourd'hui, vous voyez. Et nous y arrivons, nous allons voir tout ça. Et en ce moment, je ne fais que planter la semence. Ensuite, nous allons vous montrer un peu plus tard ce qui s'est passé. Oui, donc voilà pourquoi chaque réveil a son propre... Chaque génération a son réveil. Dieu lui-même suscite un homme. Il lui confie sa parole et il lui envoie apporter le message destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'en empare et l'hybride. Tout cela retombe tout parfaitement. Je pourrais m'arrêter ici une minute. On n'est pas pressé, voyez. Faites un retour en arrière. C'est exactement ça qui a commencé à tout début dans la Genèse. Dieu avait mis en place sa récolte de la race humaine et Ève l'a hybridée. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors, il y a un jugement sur Ève. Luther avait mis en place toutes les autres. Christ avait mis en place. Les apôtres avaient mis en place. Les prophètes avaient mis en place. Jésus n'a-t-il pas dit, « Lequel d'entre vous, de vos pères, n'ont pas persécuté les prophètes que Dieu avait envoyés? » N'a-t-il pas enseigné qu'un roi, à un moment donné, avait envoyé son serviteur, puis envoyé un autre serviteur, et envoyé un autre serviteur, et ainsi de suite, et qui finalement, il avait envoyé son fils? Voyez, chaque génération reçoit, parce que la chose s'est répétée à partir d'Adam et Ève. Encore là, de la première récolte du Jardin d'Éden, une moitié a été perdue, la Vierge sage, la Vierge endormie, une moitié, l'une, est restée fidèle à la parole, et l'autre l'a hybridée, et ainsi de suite, continuellement, sans relâche, comme ça. Et ça s'est passé comme ça tout au long de l'âge. Nous allons le prouver par la parole de Dieu, par l'histoire, c'est vrai, l'hybridation. L'hybridation a commencé dans l'Éden. Au début, elle a commencé dans la Genèse, c'est le commencement. C'est là, elle se termine ici, dans l'Apocalypse, à la seconde venue de Christ. Maintenant, souvenez-vous, c'est exactement, voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil et lui est donné à l'occasion de recevoir la parole, après quoi il hybride la chose au lieu de continuer avec elle. Ils vont ailleurs. Mais ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire, voyez-vous, que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur Terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir, voyez-vous? La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ, et Christ en lui, et il y a le millénium, il y a tout en lui parce qu'il est la parole. Voyez, très bien. Jésus a dit dans Jean 3, 5. Maintenant, si vous voulez noter ça, Jean 3, 5, nous connaissons tous le passage, ou sinon je vais le prendre. Il y aura peut-être quelqu'un à l'écoute de la bande qui ne pourra pas le prendre tout de suite. Alors, je vais lire ici dans Jean au chapitre 3 et au verset 5. Et nous allons voir ce que Jésus a dit. On pourrait commencer juste un peu plus haut, au verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce que c'est une semence? Chaque parole parlée de Dieu est une semence. C'est vrai. Je vais le prouver dans un instant, montrer où Jésus l'a dit. Chaque parole parlée de Dieu est une semence. Alors, si un homme ne naît de nouveau, pourquoi lui faut-il naître de nouveau? Il est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve, il est un hybride, il faut qu'il naisse de nouveau. Pourquoi? Il est né dans le péché à cause du péché d'Ève. Conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges, il est un menteur dès le départ, peu importe combien il peut être intelligent, instruit et tout ce qu'il peut bien être, il est un menteur. La Bible le dit. Quelle a été la sainteté de ses parents ou quoi qu'il en soit, il est un menteur dès le départ. Et le seul moyen pour lui de dire la vérité, c'est d'exprimer ce qui est la vérité de ses propres lèvres. C'est le seul moyen par lequel la vérité puisse venir. S'il y a quoi que ce soit de contraire à cette parole, il est encore un menteur. C'est assez direct, mais c'est ce que Dieu a dit. Oui, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Voyez, s'il y a quoi que ce soit de contraire qui sort de ses lèvres, de renier sa parole ou de l'appliquer à un autre âge, à une autre race ou à une autre génération ou quoi que ce soit, il est un menteur. C'est tout à fait vrai. Il faut qu'il naisse de nouveau. Et alors, il voit chaque parole. La seule manière pour lui de naître de nouveau, c'est d'avoir cette vie de Dieu en lui pour produire cette vie-là. Une semence doit avoir de l'eau pour croître. Alors, mettez une semence en terre. S'il n'y a pas d'humidité dans la terre, c'est de la poussière. Et elle ne croîtra pas dans la poussière. Elle ne le peut pas. Il faut qu'elle... Il y a un certain pourcentage d'humidité, sinon elle ne croit pas. Pas vrai? La lettre tue, c'est l'esprit qui lui donne la vie, voyez? Donc, elle doit avoir l'humidité pour pouvoir croître. Sa parole est une semence maintenant. Pour prouver ça, prenons Luc chapitre 8, verset 11, et nous allons voir si c'est vrai ou pas. Si la Bible dit dans sa parole est une semence, Luc chapitre 11, chapitre 8 plutôt, et le verset 11, et nous allons voir ce que Dieu a dit là-dessus, chapitre 8, verset 11. Ce qu'il fait là, il se met à leur dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Commençons au verset 4, lisons simplement. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes, auprès de lui, il dit ses paroles. Parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. D'humidité. Les baptistes, les presbytériens, les luthériens qui n'ont pas d'eau. Quand il vient de se convertir, il fixe son regard sur Christ. Il croit, mais bientôt sa dénomination le lie à un tel point qu'il n'y a plus l'humidité de l'esprit. Il devient dénominationnel, il est mort. Ce n'est pas seulement les baptistes, mais aussi les pentecôtistes. Vous ne le croyez pas, je sais, beaucoup d'entre vous ne le croient pas. Mais attendez donc un peu maintenant, on va voir si c'est ce que la Bible déclare, oui ou non. Très bien. Par manque d'humidité, le dernier mot du verset 6 du chapitre 8, le manque d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, crurent avec elle et l'étouffèrent. Voyez ça, c'est ce que c'était, ce qu'il fait là. Il leur dit que certains, dès qu'ils en arrivent là, aujourd'hui, je ne vais pas prendre de gants du tout, voyez. C'est justement ce que je pense des hommes d'affaires chrétiens et des autres, de ces organisations pentecôtistes et de ces gens qui élèvent toutes ces grandes constructions de millions de dollars. Les richesses du monde ont étouffé la gloire de l'Esprit de Dieu. C'est la mort par étouffement, le monde, le souci du monde, et les ont étouffés. Les femmes veulent mener une vie active, se couper les cheveux, se faire une coiffure hydrocéphale, porter des shorts et ressembler au reste du monde. Les prédicateurs se tiennent en chair avec, ils pratiquent leur Amen et ils ont peur de la parole de Dieu à cause de leur gagne-pain. S'ils ne peuvent pas se promener en Cadillac, alors ils ne sont même plus considérés comme spirituels. C'est vrai, s'ils ne peuvent pas porter ce qu'il y a de mieux comme vêtements et faire tout le reste, et ils sont considérés comme ils sont rétrogrades et ils ne sont pas quelqu'un. Un vieillard, le vieux frère Kids là-bas, il me disait ce matin qu'ils ne veulent même plus de lui parce qu'il est âgé et qu'il ne s'en tient strictement à la parole. Qu'est-ce qu'il y en a? Il manque d'humidité. Très bien. Il tomba dans une autre partie, tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a une oreille pour entendre, entende. Oh, quelle parabole! Je pourrais vraiment prendre plaisir à prêcher sur ce texte-là. Une prédication, après avoir ainsi parlé au chapitre 8, au verset 8 du chapitre 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Il s'est écrié. » peut-être quelque chose comme... Si votre oreille est en harmonie avec Dieu, que celui-là entende, voyez, ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, les mystères. Vous voyez de quoi il parle ici? Maintenant, regardez bien, les mystères de Dieu, qu'est-ce que c'est? Regardez bien, une petite minute. Mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils voient, ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voyez, mais la parole de Dieu va se retrouver là-bas au jugement pour les juger, parce qu'ils l'avaient bien vue. Elle était là. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence de la vie, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Par conséquent, pour avoir la vie, vous ne pouvez pas passer par un credo, vous ne pouvez pas passer par une dénomination. Vous devez revenir à la parole, la semence de la vie. Très bien. Sa parole est sa semence et son esprit est l'eau. Maintenant, on revient à Jean 3, 14. C'est là qu'on retrouve ça, vous voyez-vous? L'esprit élève est l'eau. Maintenant, regardez, Jean 3, 14, nous comprenons ce que ça veut dire, si vous voulez le lire. Et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voyez? Maintenant, si Moïse a élevé le serpent des reins, c'est dans le même but que Christ a été élevé. Alors, qu'en est-il? Moïse a élevé le serpent des reins afin que le peuple qui périssait puisse avoir de l'eau pour vivre. Regardez, Jésus, ô Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Maintenant, on va enfoncer le clou cet après-midi, voyez-vous, on va prouver ça. Jésus est la parole de Dieu et il a été percé pour que la vie est à l'intérieur de la semence. Pour que cette vie qui est esprit, pour que l'eau, en se répandant, que l'esprit en se répandant sur la semence de Dieu, produise la vie de la semence. Et si cela produit autre chose, c'est qu'il y a là une semence d'une autre espèce. Amen. Vous comprenez? Si l'Esprit de Dieu vient arroser la semence, si c'est bien la semence qu'il arrose, cela produira la vie de la semence. Est-ce clair? Produira la vie de la semence. Car c'est pour ça qu'il a été donné. Je crois que la Bible est la parole, toute la vérité. Et Jésus est la parole manifestée. Lui et sa parole sont une seule et même chose. Qu'est-ce qu'il était? Maintenant, regardez. Il était cette semence. Il faut que je revienne quelque chose. Retienne quelque chose pour pouvoir l'incorporer ce soir. Voyez-vous, ce n'était pas facile. Il était cette semence qu'Ève aurait dû produire. Vous saisissez? Il était cette semence qu'Ève devait produire. Mais elle l'a hybridée en étant incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Donc, il était cette semence, c'est le seul moyen par lequel la vie puisse exister pour qu'il y ait reproduction de la vie. La vie devait venir à travers cette semence. Et cette semence devait mourir pour pouvoir répandre la vie. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'eau a été donnée, pour arroser la semence. Le Saint-Esprit qui était dans le Jardin d'Éden devait arroser la semence. L'homme n'a pas été fait pour mourir. Elle a été faite pour vivre. Mais l'hybridation a produit la vie, la mort, là plutôt. Elle l'a hybridée. Maintenant, vous niez la semence du serpent? Alors, je vous demanderai pourquoi tous ces services funèbres? Elle a été hybridée. Chacun de nous sommes hybrides. des dérivés de l'original. C'est pour ça que vous mourrez sans cesse. Mais oh Dieu, il y a un germe de vie qui est venu de la vraie semence. Oh Dieu l'a prouvé qu'il s'agissait de la semence. Il l'a ressuscité. Voyez, afin que cette vie-là, en se répandant sur la semence originelle telle qu'elle avait été donnée à Ève, qu'en se répandant sur la vraie Église, elle produise de nouveau la vie par la naissance, par le sein de son épouse. Voyez, oh, c'est riche et glorieux. Je vous laisse un peu de temps pour étudier ça, pour que ça pénètre bien. Et il est cette semence. Il est cette semence qui a été produite par la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà la semence, voyez-vous? Elle reçoit la parole. Donc, Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole sont une seule et même chose. Voilà pourquoi. Elle a été à ce point manifestée en lui si parfaitement. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté si parfaitement en Jésus, c'est parce qu'il était la parole semence. La parole germe, elle-même, le germe qui est à l'intérieur de la semence, c'est la vie de la semence. Vous saisissez? Vous voyez? Il était la parole germe de Dieu. Le germe est l'esprit. Le germe est l'eau. Et Jésus a dû être percé là-bas pour que cette semence puisse faire jaillir sa vie afin d'arroser d'autres semences qui allaient venir. Oh, est-ce que vous voyez? Il a même dit, j'ai encore d'autres brebis. J'en ai encore d'autres qui ne sont même pas dans cette bergerie. Elles vont voir cela. Elles vont recevoir cette parole et s'en tenir strictement à elle. Aussi, j'envoie l'Esprit pour qu'il l'arrose. Et elle produira exactement ce qui a été prévu. Elle produira des miracles. Elle produira la puissance de Dieu. Elle produira... Et cette semence étant de la même espèce que la semence, ne niera rien. Elle ne peut pas dire, « Monsieur le gratteron, viens vivre avec moi. » Non, non, monsieur. Non, 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 elle ne le fera pas ça, jamais. Elle ne croisera tout simplement pas. On ne peut pas croiser la mort avec la vie. Vous ne pouvez pas être mort et vivant en même temps. Ah, voyez? Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est là le germe qui est venu de la semence. C'est ce qu'il est, lui. Il est la parole de Dieu manifestée parfaitement. C'est pour ça qu'il est... Quand lui, il y avait quoi? C'est ça qui est. C'est précisément lui, le Fils de Dieu. Adam, c'était lui, le Fils dont il avait été promis qu'il viendrait d'Adam pour perpétuer la race humaine. Et Ève a hybridé la chose par le serpent et elle a produit une génération d'enfants bâtards nés pour mourir sans vie. Et Jésus est venu et c'était lui, cette semence. Il l'a prouvé. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Vous le voyez? C'est précisément lui, Ève, aurait fini par produire cet enfant-là. Mais elle a hybridé la chose. Elle a introduit le serpent dans l'oreille pour écouter la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Attendez seulement qu'on vienne à l'épouse avec ça. Voyez, c'est ça qui... C'est pour ça que je crois ce que je crois. Il faut que tout soit ramené à cette parole. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un veut discuter avec moi, me parler de cette parole, venez, c'est vrai. J'ai fait cette proposition-là n'importe quand. Si vous pensez que ce n'est pas au nom de Jésus-Christ qu'il faut baptiser, venez m'en parler. Oui, si vous ne croyez pas que la semence du serpent existe, venez me voir, prenons donc la parole. Si vous ne me croyez pas que la femme doit avoir les cheveux longs et que c'est son voile, venez m'en parler avec la parole. Si vous ne croyez pas que la fin du temps est proche et que ces choses dont je parle sont bien actuelles, venez m'en parler. Voyez, venez avec moi. Semence, frère, venez donc, c'est vrai. Vous ne pouvez pas être une semence et être en désaccord avec la parole, parce que la parole est la semence. Et vous êtes la parole, comment pouvez-vous être en désaccord avec elle? Vous seriez en désaccord avec vous-même. Vous iriez à l'encontre du but même que vous poursuivez. C'est comme quelqu'un qui disait, pourquoi donc allez-vous vers ces gens là-bas? Eh bien, si je ne le faisais pas, j'irais à l'encontre du but avec même lequel j'ai été envoyé ici. Il faut qu'il y ait une lumière. Bon, à mesure que nous avançons, nous allons voir ces choses et nous montrer comment elles se sont mises en place et c'est parfaitement conforme à la parole. Maintenant, oui, monsieur, il est. Voilà pourquoi Dieu a pu agir à travers lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est arrivé ici sur terre, je ne fais rien sans que le Père me l'ait montré parfaitement. Et tout ce qu'il faisait, c'était toujours confirmé par les Écritures. Il a dit, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et je ne fais pas les choses qu'elles avaient annoncées, qu'elles feraient, alors je ne suis pas cette semence originelle. Mais si j'ai fait les choses, alors pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est vrai, si vous ne pouvez pas même pas croire en moi tel que je suis, alors croyez la parole que je prononce. Croyez aux œuvres que je fais, parce que ma semence ne peut pas produire autre chose que ce que je suis. Le gratteron ne peut pas être autre chose qu'un gratteron. Vous aurez beau l'hybrider avec n'importe quoi d'autre, il est toujours un gratteron, c'est vrai. Il l'exprimera. C'est pour ça qu'un être double est un hypocrite, c'est un hybride. Un homme qui prétend être un homme de Dieu et qui nie la parole, c'est un hybride, un mulet qui prétend être le cheval. Il n'est pas un cheval. S'il disait « je suis un âne », il n'est ni l'un ni l'autre. Tu es un hybride, un bâtard, exactement, c'est direct. Mais c'est ça, son but n'était pas de produire cela. C'est l'homme qui a produit cela par sa sagesse. C'est ça qui en arrive. C'est ça qui aboutit toute la sagesse de l'homme et un bâtard, très bien. Donc, voilà pourquoi Jésus était manifesté si parfaitement. Pourquoi Dieu était manifesté si parfaitement en Jésus? Parce qu'il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. C'est pour ça. Elle ne pouvait produire absolument rien d'autre que Dieu. Et si Dieu est en vous, pourriez-vous être autre chose? Jésus n'a-t-il pas dit des prophètes à qui la parole de Dieu est venue? À qui la parole de Dieu est-elle venue? Aux prophètes de Jésus ne les a-t-il pas appelés des dieux? Pourquoi? Dieu était manifesté en eux. Qu'est-ce que c'était? La parole parlée, manifestée, voyez? C'est ça. Il a dit, comment pouvez-vous nier dire? Si vous aviez de la sagesse, vous comprendriez. Il a dit, comment pouvez-vous dire que nous les appelons, Dieu lui-même les a appelés des dieux? Il a dit, comment donc pouvez-vous dire que vous croyez en eux, alors que vous me reniez, moi, quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Pourquoi donc n'ont-ils pas vu ce qu'il en était? C'est la même chose aujourd'hui. Je suis cette semence qui devait venir, la semence de la femme. Moi, je te donnerai une semence pour ce qui est du serpent. Le serpent l'avait déjà souillé. Il a dit, mais ta semence que moi je te donnerai lui écrasera la tête. Il répandra tout ça. Amen. Je voudrais tant que tout le monde voit ça, voyez. Je suis venu pour vaincre et pour redresser ce que Ève a fait. Le seul moyen pour moi de le faire, c'est à travers une femme qui a cru la semence, alors qu'une femme n'a pas cru la semence. Une femme a cru la parole alors qu'une autre ne l'a pas cru. Je suis ce vainqueur. Je suis celui qui est venu pour donner la vie, afin que par ma mort, la peine de ce qu'elle a fait soit expiée, qu'ainsi ma vie qui vous sera donnée se répandre sur vous, et vous serez des fils de Dieu et des filles de Dieu, voyez-vous, pourvu que la semence soit à l'intérieur. Si vous l'hybridez, vous n'avez plus qu'un enfant bâtard, dénominationnel, c'est tout. Tout ce qui nie la parole, excusez-moi les sœurs, je voudrais il faut vraiment que je le dise exactement comme c'est dit ici. Voyez? Et c'est comme ça. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Oui, monsieur. Naître de la parole de l'Esprit nous ramène à la parole parlée de nouveau, comme dans Jean 3, voyez. Naître de l'eau et de l'Esprit, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alors cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Voyez, voilà la raison de la mort de Christ. C'est ce qui nous ramène directement à quoi? Être des fils de Dieu. Si Ève avait produit cet enfant, elle aurait fini par le produire. Dieu ne lui avait-il pas dit « multipliez, remplissez la terre » Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'aller là-bas faire la prostituée. Bon, vous me direz, c'est direct ça, frère Branham. Mais attendez encore un peu, on va y venir tout à l'heure. Voyez, vous dites, c'est impensable. Bon, on va bien voir si c'est ce que la parole dit, oui ou non, voyez. Si oui, alors c'est vrai, ce n'est pas caché. Si ça l'est, c'est caché à ceux qui sont perdus, voyez, c'est vrai, voyez. Bon, d'accord, c'est ce qui vous ramène directement à la parole parlée. Et alors, nous sommes la parole de Dieu manifestée. Voyez, Jésus a dit la même chose. Celui qui croit en moi, les choses qui je suis, pourquoi je suis venu et le but que j'accomplis de ramener les hommes à croire la parole de Dieu et à n'accepter rien d'autre qu'elle, celui-là fera aussi les œuvres que je fais. Voilà. Pourquoi ne font-elles pas aujourd'hui? Ce sont des enfants bâtards, hybrides, métisés. C'est un mulet. Il ne sait pas ce qu'il croit. Un mulet ne sait pas qui est son papa et qui est sa maman. Il ne sait pas. Il n'est pas un pedigree, il ne vaut rien, il est une créature illégitime. C'est pareil pour toute personne qui prétend croire en Dieu et qui ne croit pas sa parole et qui va prendre un credo dénominationnel et le croiser avec la parole. Voyez-vous, vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas être mort et vivant en même temps. Alors, même la parole de Dieu elle-même ne va pas croître. Vous ne faites que tenir le rôle d'hypocrite et ça s'applique à l'évêque et au prêtre, au cardinal et à qui que ce soit. C'est vrai, il faut que... ce soit la parole, sinon vous êtes mort, un enfant illégitime, c'est tout. La parole de Dieu, la partie qui est de Dieu, ne croîtra pas. Peut-être que vous croîtrez dans le même champ, comme nous allons le voir dans un instant, mais vous n'êtes pas dans la bergerie, ça c'est sûr. Elle ne croîtra pas, très bien, très bien. Alors nous remarquons, voyez-vous la parole parlée? Alors nous sommes la parole de Dieu manifestée. C'est ce que Dieu veut de son Église et veut se manifester. Comment peut-il se manifester sans que sa semence à lui soit dans la personne? Comment pouvez-vous utiliser votre propre pensée que Dieu se manifeste à travers vous? Comment pouvez-vous vous fier à votre propre croyance, dire, eh bien, mon pasteur enseigne, mon credo dit que les jours des miracles. Comment pouvez-vous faire ça et puis être un fils de Dieu manifesté? Comment pouvez-vous le faire? La mort de Jésus-Christ ne vous a rien à rapporter. Oh, je l'accepte comme mon sauveur. Pas du tout. Vous dites que vous l'acceptez, mais vous ne l'acceptez pas. Vos œuvres démontrent que vous êtes. Jésus a dit la même chose. Si vous pensez que je suis un enfant illégitime, il disait, nous sommes fils d'Abraham et nous n'avons pas besoin que qui que ce soit nous enseigne. Il a dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous me connaîtriez. Il a dit, « Qui de vous me déclarera coupable de péché et d'incrédulité? Montrez-moi une seule chose que Dieu avait promise à mon sujet qui ne soit accomplie. Montrez-moi une seule chose que le Père avait promis que je n'ai pas accompli le péché, c'est l'incrédulité. Maintenant, voyons si vous les produirez. Ça leur a coupé le soufflet. » Voyez, certainement, il a dit, « Qui m'accuse? Qui peut-il me déclarer coupable de le péché et d'incrédulité? » Voyez, je ne crois pas. Alors pourquoi le Père accomplit-il à travers moi comme il le fait chaque parole qu'il a promis? Maintenant, faites-moi voir ce que vous arrivez à produire. L'enfant illégitime, c'est qui alors? C'était eux, des enfants illégitimes qui faisaient profession d'être de Dieu. Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous faites ses œuvres. Quel genre d'œuvre le diable a-t-il fait? D'essayer d'hybrider la parole de Dieu à travers Ève. C'est exactement ce que font des grandes dénominations aujourd'hui. Elles font les œuvres du diable, le Père. Elles essaient de prendre un credo et de le croiser avec la parole de Dieu. C'est ce que Satan a fait au commencement, le Père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frère. Sortez de là! C'est ce que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, vous devriez pouvoir regarder et voir cela, des hybrides. Oh là là! Les œuvres que Jésus a faites, si un homme a la semence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu qui arrose cette semence, les mêmes œuvres que Jésus qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu'ils êtes la semence originelle de Dieu, sa mort vous ramène à la semence originelle de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. Vous ne croyez pas ça? Très bien, prenons Jean 14, 12. Vous dites, je suis un croyant, frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. Très bien, je vais voir si Jésus vous appelle un croyant, voir si la parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, absolument, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il ne fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que la même semence? On ne peut empêcher. Comment pouvez-vous planter du blé ici et du blé ici et dire je vais récolter des concombres ici et du blé ici? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Si vous l'hybridez, alors ce ne sera pas un concombre, ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument, absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un concombre, ni quoi que ce soit que vous l'avez croisé. C'est un hybride et c'est un produit mauvais. Il est mort en soi. Il ne peut plus se reproduire. Il est mort déjà là. Se reproduire, aller plus loin. Il ne le peut pas. Pour lui, c'est la fin, c'est tout. Mais si vous voulez avoir un cocombe, commencez avec un cocombe. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole, ensuite, laissez. Et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Alors, maintenant, qu'en est-il de votre pluie de l'arrière-saison? Vous voyez où ça se retrouve? Ça va se retrouver après quelque temps, n'est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu'il y a eu et il pensait que c'était des courges et, ou ceux de l'école des prophètes, là-bas, ces dénominations qu'ils avaient été formées, ils ont cueilli des coloquintes sauvages et ils pensaient que c'était des pois, enfin, passons. Alors, les œuvres qui se manifestent en lui, ce sont les mêmes puisque c'est le même la même parole semence de Dieu. Le Fils de Dieu était sa semence qui a servi d'exemple et que sa vie lui a été une fois que l'Esprit a été répandu sur lui après qu'il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur lui, la vie même qu'il a produit et même. Eh bien, ce même Esprit l'arrosant du Saint-Esprit produira la même espèce de vie qui se fera la même chose que ce qui lui est fait si c'est la même semence. Une semence de fils de Dieu produira une semence de fils de Dieu. Alors, honte à vous les femmes qui se coupent les cheveux. Honte à vous les prédicateurs qui nient la vérité, qui disent « il n'y a pas de mal à ça, les cheveux, ça n'a rien à y voir ». Mais Dieu, lui, dit que oui. Vous voyez où on en est. Vous voyez, voilà pourquoi je crois que la parole est une semence. Et si la pluie tombe sur la semence, elle produira selon son espèce. Maintenant, qu'en est-il de ces réveils? Qu'est-ce qu'on fait? On a produit 1 million de plus en 44, des baptistes, des presbytériens, quoi encore, des pentecôtistes. Mais où en est-elle, cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ? Je ne fais rien sans que le Père me l'ait d'abord montré. La semence de cette espèce-là, d'où provient-elle? Cette semence-là que le Saint-Esprit arrosera et fera sortir, il est l'eau pour la semence. Et si la semence a été plantée, c'est exactement ça que doit servir l'eau. Si l'eau tombe sur vous, que vous dites que Dieu soit béni, je vais dire une chose, prédicateur. Je suis un tel et moi, je ne crois pas à ce genre de choses-là. Tu es dénominationnel. Tu n'es qu'un vieil hypocrite au départ. C'est une semence de cette espèce-là qui a été plantée. Ne me comprenez pas mal. Je vous aime, mes petits. J'essaie de vous faire voir ceci. Voyez, je n'irai pas plus loin quand j'aurai terminé aujourd'hui. J'en resterai là, mais je veux que vous sachiez une fois pour toutes la vérité et la raison pour laquelle je crois ce que je crois. Je crois que le diable vous a séduit, franchement. Je le sais, ce qu'il l'a fait. C'est selon la parole de Dieu. Il ne peut pas faillir. Il vous a séduit, oui, monsieur. Voilà pourquoi je prêche ces choses comme je le fais, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Oh, vous dites, eh bien, frère Branham, ceci, c'est une autre époque. Et c'est la même parole. Ils ont pris du blé qui venait du grenier. De là, du temps de Joseph, ils l'ont mis en terre il y a quelques années. Avez-vous vu ça dans les magazines? Il a produit une récolte de blé. C'était toujours du blé. C'était pour ça. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de l'eau. C'est tout. La parole de Dieu est exactement la même. Quelle était quand il l'a prononcée là-bas il y a des millions d'années? Tout ce qu'il lui faut, c'est de l'eau. Pourquoi n'avons-nous pas de récolte? Parce que nous n'avons pas planté la bonne espèce de semence. Combien d'entre vous aimeraient changer leur lettre d'affiliation? Vous êtes alors un fils de l'enfer, deux fois plus qu'au départ. Combien d'entre vous, les méthodistes, aimeraient devenir baptistes? D'entre vous, les baptistes, aimeraient devenir pentecôtistes? Vous n'avez qu'à apporter votre carte de membre ici. Oh, miséricorde, des âneries, des saletés du diable. Il n'y a pas vie là-dedans du tout. Cet hybride hypocrite, mort, deux fois mort, déraciné. Jésus n'a-t-il pas dit, tout plant qui n'a pas été planté, mon père sera déraciné? Que ce soit une dénomination, que ce sera déraciné. Seule la parole de Dieu subsistera. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Toutes les paroles d'hommes est un mensonge, mais la mienne est la vérité. Alors, où irons-nous? Vous feriez mieux de reprendre vos sens, mais vous ne pouvez pas l'entendre à moins d'avoir été prédestiné à l'entendre. Nous y arrivons, là. Ce n'est pas étonnant que cela glisse comme de l'eau sur le dos de canard. Il est fait pour se débarrasser de l'eau, pas pour l'absorber. L'arche était faite de bois de gopher et de bois d'acacia, et c'est ce qu'il y a de plus. C'est tout poreux. Il n'y a rien dedans. C'est tout poreux. Tout a été retiré. Ça pousse comme ça. C'est le bois le plus léger qui existe, le plus léger que le balsa. Pourquoi l'ont-ils fait comme ça? Pour qu'ils puissent l'imprégner de poids. Si ça avait été du chêne, vous dites, est-ce que du chêne, ça aurait été pas fait aussi bien l'affaire? Non, monsieur, il n'absorberait rien. Il va repousser. Il est imperméable alors que l'autre a la propriété d'absorber. Une vraie semence de Dieu a la propriété d'absorber l'esprit. Tout ce qui est de la dénomination a été retiré. Toute l'incrédulité est sortie. Et le Saint-Esprit, quand il est dans le germe de vie qui se trouve là, il produit une semence parfaitement. Un autre fils de Dieu est né. Amen. Un autre Dieu amateur. Un autre fils de Dieu. Je suis Branham. Parce que je suis né de Charlie et d'Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham, parce que je suis leur semence. D'un commun accord, tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une semence et a produit cela, et c'est moi. Quand Dieu et sa parole deviennent un, alléluia, cela, l'Esprit de Dieu, quand il arrose de sa semence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu, et ce n'est pas l'individu, c'est Dieu. Car quoi? Vous êtes mort, vous ne vous appartenez plus, vous vous regardez comme mort, vidé, en attendant le germe de la semence. Et alors, qu'en est-il? Ce n'est plus vous, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu dans l'homme, c'est le germe de la semence. C'est au commencement la parole parlée, c'est la parole de Dieu manifestée dans l'homme. Alors, ce n'est pas l'homme, c'est un homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas être un hybride et un fils en même temps. Il est bien un fils. Il est ou bien un fils de la mort ou bien un fils de la vie. Et alors, s'il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable et qu'il le tue. Abandonnez-vous à Dieu. C'est plutôt ça que je voulais dire, qu'il tue le diable qui est en vous et qu'il le chasse, que vous soyez vidé ensuite, que Dieu plante sa propre vie en vous. Et alors, ce n'est plus vous, c'est la vie de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu arrosée par le Saint-Esprit. Il produira la même chose, voyez-vous. J'aimerais vraiment prêcher là-dessus pendant quelques minutes, mais j'ai ici 30 ou 40 pages de références bibliques. Et jusqu'ici, j'en ai donné que 3. Oh, très bien. Manifester les œuvres manifestées, les mêmes par les mêmes par nous, car c'est la même parole. Maintenant, si vous voulez faire les œuvres de Christ, faites les mêmes choses que lui. Celui qui croit en moi aura mes œuvres. C'est-à-dire quoi? Qui croit quoi? Quel est le germe de la semence originelle qui est venue? Où est la semence? Tenez, je vais prendre ces mouchoirs ici. C'est l'homme qui aurait dû être. Juste ici, c'est l'homme qui aurait dû être. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève l'a hybridé par un croisement. La conséquence, alors qu'elle en a été la conséquence, cela s'est transformé en mort. On meurt sans cesse, on meurt. Maintenant, cet autre est venu qui s'en... Or ici, il y a la parole qui reste toujours la même. Ici, c'est la parole qui se retrouve ici, toujours la même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est la parole. Or, la parole que Dieu avait prononcée de multiplier, de remplir la terre, elle n'a pas pu se poser nulle part. Finalement, cette parole, elle s'était plantée dans le sein d'une vierge. Nous en parlerons plus cet après-midi des deux saints. Et qu'est-ce qui s'est passé? De lui est venue la vie du germe et la chose qui donne l'eau, qui donne au grain la possibilité de se reproduire. L'esprit est sorti de lui et est monté. Ici, c'est nous. Nous nous retrouvons ici. Qu'est-ce que ça qui se produit? Nous y croyons. Nous y croyons. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croit en moi, voyez, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, la manifestation que le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe, il est venu sur moi, il a accompli ceci, non pas une hybridation, mais par une naissance vierge, non pas le cours normal de la vie, comme on fait un enfant, un mari avec sa femme. Non, pas ça. Non pas une hybridation, mais une naissance vierge. Maintenant, c'est grâce à ceci que je donne cette vie. Et alors, si vous, par la foi, vous acceptez qu'il en est du Père, tous les prophètes, toute la parole de Dieu, je répandrai d'en haut cette vie sur vous, et vous ne pourrez pas faire autrement que de produire la même chose que moi, ce que moi je suis. Les œuvres que je fais, il les fera aussi. Qu'est-ce qu'il faisait? Uniquement ce que le Père lui conduisait à faire, ce qu'il voyait, Jean 5, 19, uniquement, je ne fais rien sans que le Père me l'ait montré. Qu'est-ce qu'il était? Il s'est fait lui-même homme. Dieu a été fait chair, il a habité parmi nous. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole parlée de Dieu à travers une vierge a produit un corps. Et dans ce corps, l'Esprit est entré, lavé par l'eau de la parole, et alors il est entré en lui, il habitait en lui, et c'est là que la vie de Dieu est venue, qu'il s'est manifesté à travers Christ. Dieu était en Christ, le oint Christ veut dire le oint, un homme qui a été oint. Et Dieu habitait en lui. Qu'est-ce que c'était? Le germe avec la chair, le oint et la chair qui était oint de l'Esprit de Dieu. Et ce qui a produit la parole de Dieu manifestée, nous l'avons contemplé, le Fils unique engendré par le Père plein de grâce. Voyez, voilà, vous voyez, il était la parole de Dieu manifestée. Alors, il est mort pour payer la dette de votre humiliation. Oh là là, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que pour vous puissiez mourir à vous-même, au point que vous-même, vous n'existiez plus, et être rempli de sa parole en croyant sa parole. Et alors, le Saint-Esprit qui était en lui descend arroser cette parole pour la faire croître. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui se manifeste, qui continue l'œuvre de son premier Fils, le Fils unique engendré par lui, voyez-vous, qui est mort à cause de l'hybridation de notre vie, pour pouvoir ainsi se réconcilier, nous ramener à l'état de fils et de filles de Dieu, afin que puisse couler dans l'Église cette même vie de par la parole, continuant la même œuvre qui manifeste comme elle l'avait été en Christ. Christ était la parole de Dieu manifestée. Et il est mort, il a donné sa vie afin d'envoyer l'Esprit, de faire monter son corps et d'envoyer l'Esprit de nouveau pour arroser, de payer le prix du rachat pourvu que nous y croyons. Voilà, c'est ça le point, pourvu que vous y croyez. C'est celui qui croit en moi, les œuvres que je fais. Alors le Saint-Esprit descend sur cette même parole de Dieu. Maintenant, vous dites pourquoi insistez-vous tant sur la Bible alors? C'est que la Bible doit être en vous. La parole est une semence et tant qu'elle se trouve ici, elle n'aura aucun effet. Mais quand elle entre ici, quand elle est dans le cœur, alors elle commence à manifester par le Saint-Esprit. Les œuvres de Dieu, c'est alors que viennent les visions, que viennent la puissance, que vient l'humilité. Vous n'êtes plus un « je sais tout », tout ça c'est terminé. Vous devenez un rien du tout, alors Christ est vivant. Vous mourrez, il vit. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il est mort, moi je vis. Quand je meurs, il reprend vie. Et quand je meurs, ce qu'il m'a promis, c'est la vie. Et je suis mort à moi-même, ça, afin de pouvoir avoir sa vie en lui. Comment y arriver? En recevant sa parole, sa semence, enfouir sa semence ici par la foi, y croire, et alors elle produit exactement ce que la Bible dit. Maintenant, mes frères, cherchez partout dans le pays. On trouve beaucoup d'imitations. Continuons un petit moment encore. Voyez, très bien. Les œuvres, les mêmes sont manifestées dans son Église que celles qui le seraient, qui ont été manifestées en Christ. C'est ce qu'il a été dit dans Jean 14, 12. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Pas vrai? Très bien. Ayant été prédestiné comme lui l'a été, alors la semence parole se fait chair. Il vaut mieux que je m'arrête là-dessus maintenant. Peut-être pas vous, mais pour que quelqu'un dans un endroit où on écoute la bande, le comprenne. Prédestiné. Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été prédestinés. Nous allons prendre les Écritures tout à l'heure. Je vais juste vous le citer. Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Très bien. Nous avons été prédestinés. Pourquoi? Christ est la semence originelle. Et cette semence originelle avait été prédestinée par la préscience de Dieu, car il savait qu'il y aurait la chute. Il l'avait prédestiné à prendre notre place. Vous saisissez? Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été prédestinés. Mais vous dites alors, est-ce qu'il condamnera les gens? Non, monsieur, vous êtes ici avec votre libre arbitre, mais la raison pour laquelle il savait, puisqu'il est Dieu, celui qui est infini, comme je vous le disais, il savait d'avance tout ce qui allait arriver, il savait qui il était. Or, ce n'est pas lui qui a fait faire ça à Ève, ce n'est pas lui qui a fait, lui a fait faire, mais il savait qu'elle le ferait. Alors, ce n'est pas étonnant, je crois que c'est au chapitre 12 de Luc, je crois que c'est là qu'il l'a dit, Notez pas ça, je vais le prendre. C'est dans mes notes, un peu plus loin. Il a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est avec raison qu'Ésaïe a parlé de vous. Ésaïe, vous avez vu d'avance. Ils sont là, ils sont assis là avec des yeux, des oreilles et tout le reste, mais malgré tout, ils ne voient pas. Pourquoi? Ils sont imperméables à la parole de Dieu. Alors Jésus a dit, hypocrite, vous êtes les enfants du diable et vous faites ses œuvres. Ensuite, vous me condamnez, il a dit, vous refusez mon ministère, alors montrez-moi-en quoi votre ministère produit la parole de Dieu dans sa plénitude, comme le sien l'a fait. Voyez, voyez. Donc, ayant été prédestiné comme lui l'a été, maintenant vous dites, cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu formel. Bon, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous le leviez la main quand j'aurai terminé. Voyez, Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier, de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné et c'est pour cette raison. Mais qu'est-ce que cela a produit l'imitation? Amener la mort. Ça, nous allons y venir cet après-midi quand nous parlerons des deux saints. Voyez, maintenant remarquez, or, là, Dieu avait vu d'avance et prédestiné un monde de fils et de filles. Il les avait prédestinés à être là. Et à cause de l'hybridation, l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, c'est ce qui a produit l'hybridation. Dieu a ramené tout ça pour que maintenant vous ne soyez plus obligés d'être un hybride. Vous pouvez revenir directement à la parole originelle et être un fils de Dieu exactement tel que vous auriez dû être au commencement, voyez? Christ ne pouvait pas être que lui-même, il était le fils de Dieu. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire maintenant, voyez-vous? Si vous étiez destiné, vous voyez la parole de Dieu, vous la croyez, parce que quoi? Voyez, il y a quelque chose de nouveau. Voyez, pourquoi? Avez-vous déjà entendu parler de prédisposition dans une famille? Quelqu'un, un fils va imiter un peu son père ou sa mère ou son grand-père ou sa grand-mère. Ce sont des prédispositions dans la famille. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose par la prédestination. Vous auriez dû être ici de la bonne façon au commencement. Mais étant donné que vous êtes venu de la façon dont vous êtes venu, vous êtes assujetti à la chute. Mais étant donné que vous avez été prédestiné, vous entendez la parole. Elle vous ramène directement à la position qui vous avait été prédestinée. Amen. Jamais vu ça avant. Vous ramène directement qu'est-ce qui vous a fait croire la parole de Dieu et rejeter ces autres choses. C'est parce que vous avez été, il y a quelque chose en vous, il y a très longtemps là-bas, vous auriez dû. Qu'en est-il? Vous avez été fait pour vivre ici pour toujours. Je veux l'écrire pour appuyer ça, prédicateur. Le voici tous ceux qu'il a connus d'avance. Il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés déjà. À quoi ça sert de prêcher, frère Branham? Il y a une récolte là-bas. Tout ce que je fais, c'est de prêcher à la sienne. Je lance simplement cela et je regarde où cela va. S'ils sont imperméables et que la crasse du bourbier de ce monde et de ce que les dominations le rejettent, et je n'y peux rien. Mais s'il y en a là-bas qui peut l'absorber, celui-là transformera en fils et fille de Dieu. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Amen. Parce qu'il a été prédestiné à cela. C'est pour ça que Dieu a pu accomplir ses œuvres à travers Jésus. Il était le fils prédestiné. Il était l'agneau immolé avant la fondation du monde, avant ces 100 millions d'années, dont nous disons tout à l'heure qu'il était question dans la Genèse 1:1 déjà là. Il avait été prédestiné à prendre sa position. Amen. C'est pour ça qu'il faisait la volonté du Père. Il était la parole manifestée. Et tous les autres fils auront la même manifestation. Ce sont eux qui ont été prédestinés, ce petit groupe, ceux qui ont dans chaque génération tout au long depuis le commencement du monde. Ils reviendront à la résurrection. C'est pour ça qu'ils s'y accrochent. Paul en a même parlé dans l'Apocalypse ou dans Hébreux au chapitre 11. Il a dit, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ils ont été dénués de toute promis maltraités. Eux dont Ce monde n'était pas digne. Amen. Ils n'avaient rien à manger. Ils ont été pourchassés, délogés, persécutés, sciés, comme Isaïe et plusieurs autres de ces hommes-là que Paul parlait, qui était celui dont il parlait quand il a dit sciés d'Isaïe, le prophète prédestiné dès avant le commencement du monde. Il aurait dû venir à travers le sein d'Ève. Mais alors, il est venu à travers le sein d'une femme. Son esprit devait venir ici pour rendre témoignage. De même, Jésus aussi est venu rendre témoignage de la mort et de l'ensevelissement et de la résurrection, que l'homme mourra, mais qu'il revivra par lui. C'est ce que lui qui a la semence qui doit reprendre vie. Amen. J'espère que vous le voyez. Très bien. Ayant été prédestiné comme lui l'a été, c'est ce qui fait que la semence parole se fait chair en vous. Son Église, la parole de Dieu. Vous dites, bien sûr, frère Branham, chaque parole, j'y crois. Alors ne faites pas marche arrière quand on vient à votre tradition, voyez. Tenez-vous-en strictement à cette parole, tenez-vous-en à elle et regardez bien ce qui va se produire. Dites, oh Seigneur, j'y crois, envoie le Saint-Esprit. Ensuite, regardez bien. Alors, il se met à rendre témoignage. Alors, vous savez ce que vous l'avez. Non pas parce qu'une sensation où les démons en produisent, non pas par un miracle, les démons en produisent, mais pas par votre foi constante dans la parole de Dieu et par la vie que vous menez, en n'ayant jamais quoi que ce soit. Très bien, c'est ce qui fait la parole de Dieu. Deviennent chers, voyez-vous? Chers et par le même haut esprit. Je vais m'attarder une minute, je ne peux pas laisser ça de côté, voyez. Jésus était la semence d'Abraham selon la chair, pas vrai? Une semence d'Abraham prédestinée et quand l'esprit est descendu sur lui, quel genre de vie a-t-il produit? Il a produit une vie de foi. Quel genre de vie? Vous voulez dire qu'il avait être un résident temporaire comme Abraham? C'est ce qui embrouille tant de gens aujourd'hui. Ils s'imaginent qu'un homme de Dieu doit faire ceci, se conformer à ceci et faire cela. Oh, miséricorde! Non, qu'est-ce que c'était? En quoi Christ était-il la semence d'Abraham? Non, pas dans son, pas dans son corps. En effet, Isaac, cette semence qui était Isaac, il a fini par tomber, elle est morte, elle a rétrogradé, elle s'est hybridée, elle est aussi. Nous allons y venir tout à l'heure, voyez, mais la semence de la foi d'Abraham qui lui faisait croire la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Voilà, phew! Vous savez, j'ai envie de pousser des cris. Regardez, voyez, regardez la semence de la foi d'Abraham. Qu'est-ce que c'était? Pas le corps d'Abraham, mais la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, dans quoi? La parole de Dieu. Peu importe ce qui arrivait, il appelait tout ce qui était contraire comme si ce n'était pas, même pas là. Oh, ça démolirait carrément les dénominations, n'est-ce pas? C'est sûr que oui. Si la vérité ne serait que sur le mariage et le divorce était présentée clairement à la lumière de ce qui est dit ici dans la Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville ou de n'importe quelle autre ville. N'essayez d'en revenir là. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. Les deux ont tort. Très bien. Si un homme devait faire ceci ou faire cela, et une femme ceci et cela, je ne fais dire que ce qui est parce qu'il y a déjà assez de confusion entre eux et à cause de moi. En ce moment, voyez, Jésus a dit, laissez-les un aveugle conduire les aveugles. Allons. Tout ce qu'ils feraient, c'est un tas d'histoires à ce sujet. Ils ne le croiraient pas. Qu'ils sont nés pour recevoir la vie éternelle. Ils ne croiront pas la parole. Voyez, c'est vrai. S'ils n'y croient pas, Dieu se manifestera à eux. S'ils n'y croient pas, eh bien, ils n'y croiront pas. C'est tout. Voyons d'abord ceci. Ça nous le verrons peut-être plus tard à un moment donné. Mais regardons d'abord ceci. Voyez-vous, et voyons pourquoi il faut que nous croyions ces choses, que nous devons les croire. Il faut que vous les croyez. Sinon, vous êtes perdus. Vous les croirez, frère Branham. Vous non, monsieur, pas moi, croyez-moi. Ce que je dis, c'est la parole. Je n'ajoute rien ici, je vous dis seulement ce qui est dit dans la Bible au sujet de croire cette parole. Et c'est ce que j'ai fait, c'est de tâcher de croire cette parole exactement telle qu'elle est écrite. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien, je ne lis simplement comme elle est. Et je la crois telle qu'elle. Et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, est avec son aide et la confirmer. Et je demande à n'importe qui de prouver le contraire. Maintenant, vous qui écoutez les bandes, venez donc le faire. Indiquez-moi une seule fois où je vous aurais dit quelque chose de faux, quelque chose qui ne soit pas arrivé. Indiquez-moi Quoi que ce soit, à n'importe quel moment que Dieu n'aurait pas confirmé et accompli exactement tel que cela avait été dit, très bien, avant, ayant été prédestiné, comme lui l'a été, ce qui est fait de la semence de parole, la même eau sur quoi? Cette église aujourd'hui, y a-t-il une épouse qui a été prédestinée? Dieu a-t-il dit qu'il y avait une épouse sans tache ni ride? Donc, elle a été prédestinée, n'est-ce pas? Voyez, bien, Christ avait été prédestiné. Il a été la semence royale d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'Esprit est venu sur Christ, il a rendu témoignage de la parole de Dieu. Et quand l'Esprit descend sur la semence parole, alors la semence royale de la foi d'Abraham dans la parole de Dieu produira une récolte de la même espèce. Vous dites, je ne crois pas ça. Très bien. Voyons voir, allons donc voir ce qu'il y en est. Sommes-nous la semence d'Abraham? Genèse 17, reprenons la Genèse au chapitre 17. Je laisse beaucoup de références de côté, mais il faut que je donne quelques-unes ici. En effet, un critique pourrait venir dire « Je ne crois pas ça ». Alors, nous allons simplement fournir quelques références là-dessus pour qu'il l'empêche de dire ça. Voyez, très bien. 17, 7, commençons au verset 6. Et je le te ferai fructifier extrêmement la semence d'Abraham, et je te ferai de nombreuses nations, les gentils et tout, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance, maintenant regardez bien, entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et ta semence après toi. La semence d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Alors, pas sa chair, Paul a dit, les Juifs, celui qui est le dehors du Juif, ce n'est pas le Juif, celui qui est Juif intérieur. Voyez, la semence d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Ceux qui croient toute la parole de Dieu sans se soucier de ce que les dénominations au papa ou maman ou qui que ce soit d'autre en dit, qui croient toute la parole de Dieu. Dieu a dit, je vais établir mon alliance maintenant, même prédestiner cette alliance avec toi et avec la semence dans chaque génération après toi qui le croira. Voilà, c'est la semence d'Abraham. Maintenant, vous dites, maintenant, regardez bien, Dieu a dit, je l'établirai avec la semence. Eh bien, vous dites, Frère Branham, ça donne là tout le monde. Attendez une minute, là, prenons dans les Éphésiens maintenant, dans l'Épître aux Éphésiens, et nous allons commencer au chapitre 1 d'Éphésiens, et alors nous en lirons un petit bout, et nous verrons bien ce que Dieu a dit à ce sujet. Maintenant, écoutez Paul, maintenant. Regardez bien comment il s'adresse ceci. Tout le monde bien d'aplomb, il nous reste à l'œil bien ouvert, il nous reste plus que quelques minutes ensuite, environ 45 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite, nous vous laisserons partir pour le repas du midi. Maintenant, regardez, Paul, apôtre, un apôtre, qu'est-ce que c'est? Un envoyé, Paul, un envoyé de Jésus-Christ, pas vrai? Par la volonté du Saint-Andréen. Par la volonté du Saint-Édrin. J'ai mal lu, n'est-ce pas? Par la volonté du Luther ou du... Enfin bon, Paul, un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu au Saint. Ça s'adresse à qui? À tout le monde? Non, monsieur. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'accepter. Non, c'est vrai. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ceux qui y sont déjà, j'espère bien que c'est à ceux-là que je parle dans cette assemblée ce matin. À ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, donc c'est à ceux qui en sont là, c'est ici. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire à ces bébés là-bas ce qu'il en est. Ils ne peuvent pas manger de la nourriture solide. Ils sont obligés de boire du lait. Ils sont rachitiques, voyez. Alors, souvenez-vous, ils ne peuvent pas manger de la nourriture solide. Donc, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. On est par l'Église, là. Ceci ne s'adresse pas à ceux du dehors. Ceci s'adresse à l'Église. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, c'est comme ce matin, ceux qui aiment cela, ils l'avalent tout rond, voyez, lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Est-ce que nous l'avons choisi, hein? Oh, frère Branham, je vous demande pardon, mais moi, je l'ai choisi. Non, vous, d'après la parole, vous ne l'avez pas choisi. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi, je vous ai choisi. Oui, et quand il dit, Jésus a dit qu'il avait choisi son Église quand? Avant la fondation du monde et ensuite, Et en lui, il nous a choisis aux dernières réunions du réveil. Qu'a fait le docteur Untel? Non, non, non. Vous lirez peut-être sans un credo, un manuel, mais pendant celui-ci, voyez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qu'avons-nous été choisis? Au dernier réveil? Aux dernières réunions de réveil, le soir où nous avons été sauvés? Eh bien, c'est quand le monde n'existait même pas, qu'il n'y avait pas d'étoiles, qu'il n'y avait pas d'atomes, pas de molécules. C'est là que nous avons été choisis. Amen. Il ne faudrait pas que je me mette à prêcher là-dessus. J'essaie seulement de l'expliquer quelque chose ici. Très bien. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons, quoi? Des membres. Non. Oh, une fois sauvés, que nous fassions comme on veut? Non. Que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son... En qualité de membre? Non, non, non. C'est amour, n'est-ce pas? C'est ça, très bien, dans son amour. Excusez-moi, j'ai fait un peu le fou, là, on dirait, je ne devrais pas, très bien. Dans son amour. Nous ayons quoi? P-R, accent aigu, D-E-S-T-I-N, accent aigu, S... Oh, prédestiné à être ses enfants d'adoption, la semence depuis le commencement, voyez-vous? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qui l'a fait? Dieu. Quand l'a-t-il fait? Avant la fondation du monde. Alors, si nous sommes venus au monde par une naissance illégitime à cause de la dépravation d'Ève, ce qui fait de nous tous ses enfants et nous assujettit à la parole, alors le Dieu souverain doit préparer un moyen de racheter ses enfants. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Et nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Oh là là! Maintenant, elle est... Où la grande chose que vous avez faite? Vous n'avez jamais fait la moindre chose. Vous devriez avoir honte. C'est Dieu qui a tout fait. La roue tourne exactement comme prévu. L'autre jour, on est venu me dire quelqu'un avait dit du mal de moi et m'accusait d'avoir commis une mauvaise action. Et j'ai dit, oh, oublie ça. Cette personne a dit, comment pouvez-vous le prendre de cette façon? Cela touche votre famille, là. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, cette situation-là a été prédestinée avant la fondation du monde pour me mettre à l'épreuve. J'ai dit, oh là 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 là, c'est sûr. Alors, ça n'est pas grave. Cette personne a dit, comment y arrivez-vous? J'ai dit, si je regardais toutes ces directions, celui-ci, je tomberais tout le temps. C'est la même chose pour les gens d'aujourd'hui. Si j'acceptais la vérité de la parole de Dieu, frère Branham, ils vont me mettre à la porte. Eh bien, pourquoi regardez-vous ici? Regardez là-bas, au bout du chemin. Voyez-vous un homme qui regarde comme ceci? Il ne sait pas où il va en regardant dans cette direction-ci. Mais si vous regardez au loin, ce qui peut se passer à ce moment-là, ça vous est bien égal. Vous savez où vous allez. Voyez, c'est ça. Regardez où vous allez. Regardez, restez aligné avec la parole. Très bien. Nous ayons prédestiné maintenant à l'adoption. Bon, croyez-vous que nous avons été prédestinés maintenant? Est-ce que Jésus a été prédestiné? Il était l'agneau de Dieu déjà immolé avant qu'il y ait de la lumière et qu'il y ait une météore, avant qu'il y ait une molécule, un atome ou quoi que ce soit. Il était le Fils de Dieu immolé. Oh, la grandeur de Dieu. Et ces petites cervelles de cacahuètes qu'on produit en série dans un incubateur surnaturel là-bas, qui cherche à contester cela et à dire que ce n'est pas vrai, c'est honteux. Tu es qui, toi? Certains d'entre eux vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'enfer et vous êtes assis dessus tous les jours, une marmite pleine de 8000 milles d'épaisseur jusqu'en dessous de vous, de matière volcanique, et ensuite vous levez les yeux, vous défiez Dieu et sa parole. Quand vous défiez la parole, vous défiez Dieu. C'est vrai. Oh là là! Que tu es grand, Seigneur, comme nous devrions être reconnaissants très bien. Alors, les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Vous saisissez? Les croyants, la parole de l'esprit sont absolument un. Ce n'est pas vous qui pensez. Vous n'utilisez pas votre propre pensée. N'est-ce pas merveilleux? La pensée qui était en Christ est en vous, voyez? Avec la pensée qui est en Christ, vous acceptez la parole exactement comme lui, parce qu'il était la parole. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Et vous êtes la parole vivante de Dieu, ses représentants ici sur terre. C'est vrai. Continuons les œuvres. C'est comme ça que devait être l'Église. Et ça, ce moment-là, alors la Bible est manifestée de nouveau, comme dans les débuts du temps des disciples, exactement comme Dans le disciple, la Bible vit de nouveau en vous. Maintenant, voyons un peu. Il faudrait que j'essaie de voir au moins 15 de pages ici en vitesse. Je n'aime vraiment pas faire ça, mais je vais être obligé de le donner en vitesse. Parce que sinon, cet après-midi, j'ai une réunion demain et il faut que vraiment que je me dépêche là. Très bien, maintenant, nous allons essayer de prendre un peu de vitesse, si possible, et nous activer. Est-ce que vous croyez? Très bien, est-ce qu'à ce moment-là, alors la Bible est manifestée de nouveau, comme dans le premier jour de Christ, voyez, parce que vous êtes une semence prédestinée, comme Christ l'était. Et quand la pluie descend sur la semence, la vie est produite d'elle-même. Quand le Saint-Esprit descend, quand il est descendu sur cette semence, donc Jésus a dit qu'il les avait choisis quand? Avant la fondation du monde, elles étaient dans une semence prédestinée, pas vrai? Alors les voilà qui montent ensemble dans la chambre haute, cette semence, la parole. Et la parole reposait là, sans vie. En elle, tout à coup, il vint du ciel un bruit au moment où les eaux se sont mises à tomber en abondance, et cela a même rempli toute la maison où ils étaient assis. Et les semences ont commencé à croître, elle a commencé à se manifester, la parole de Dieu, elle se manifestait très bien. Mais alors, pourquoi les feux du réveil sont-ils baissés? Maintenant, j'ai ici une dizaine de passages de l'Écriture, si vous arrivez à voir les notes ici que je devrais citer, mais je suis obligé d'en laisser beaucoup de côté. Je m'arrange pour que vous ayez les grandes lignes. Très bien, mais alors pourquoi les feux du réveil ont-ils baissé? Maintenant, je suis obligé de mentionner des noms, et après ça, je ne le ferai plus, à moins que Dieu me dise de le faire, mais je suis obligé de mentionner des noms, je suis obligé de dire des choses que je ne voudrais pas dire, mais c'est pour que ce soit clair. Vous pouvez voir maintenant à quoi je vais vous en venir, la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Je crois que ceci est la parole et je crois que Christ a une église et que l'église est le champ. Nous allons y venir tout à l'heure et vous devez d'abord mettre la parole dans le champ avant que l'Esprit puisse faire quoi que ce soit, voyez? Alors, pourquoi les feux du réveil ont-ils baissé? On n'entend plus beaucoup parler de Billy Graham et de ces grands évangélistes-là. Oral Roberts n'enflamme plus le pays comme avant. Mes réunions à moi, on n'en entend même pas parler. Vous avez là les trois. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, nous allons aborder un enseignement qui est vraiment profond, voyez. C'est maintenant que je vais vraiment devoir m'en servir. Si jamais cette bande tombait dans les mains de Billy Graham ou de Ralph Roberts, je veux que vous sachiez, mes frères, que ce n'est pas pour manquer d'égard envers vous. Je m'incluse aussi, moi-même, si vous remarquez, en tant que votre confrère dans l'Évangile. Et je pense qu'après ceci, vous comprendrez mieux, frère, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'espère que vous trouverez grâce aux yeux de Dieu et devant vous, en ce que j'aurais été honnête et vous aurez exposé franchement le pourquoi. Donc, Il n'y a pas longtemps, l'ardeur du feu de Billy Graham se faisait sentir partout dans le monde. Maintenant, on n'en entend parler que très rarement. Il est toujours actif, mais qu'est-ce qu'il y a, Oral Roberts? Mais c'est bien simple, il enflammait la terre, c'est en train de s'éteindre. Tommy Osborne, ce sont tous de braves hommes, des hommes saints. Qu'est-il arrivé? Moi qui crois que Dieu m'a appelé à exercer un ministère. Qu'est-il arrivé au mien? Maintenant, c'est ici qu'on va avoir la réponse à quelques questions. Voyez, qu'est-il arrivé? Vous dites, Frère Branham, le vôtre est encore plus mort que les autres. Ça, c'est vrai. C'est bien vrai. On entend plus parler de Billy Graham que de moi, ou on entend plus parler de Billy que d'Oral. On entend plus parler d'Oral un jour que moi en 6 mois. Tommy Osborne, Tommy Hicks, n'importe lequel de ces hommes saints. On entend plus parler d'eux que de moi. Alors, dans ce sens, le mien a perdu encore plus de terrain que tous les autres. Quand est-il arrivé? Frère Branham, vous dites que vous qui êtes là à nous dire que vous croyez vraiment la parole et tout, eh bien, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous voulons savoir. Maintenant, inscrivez ceci dans votre pensée, là. Fermez le parapluie, secouez-en la pluie, ouvrez votre cœur un instant et écoutez. Souvenez-vous, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, c'est ce que nous avons lu pour baser notre réflexion d'aujourd'hui, chaque semence selon son espèce. Elle devra produire selon son espèce, c'est vrai. Chaque semence devra produire. Souvenez-vous, la terre est pleine de semences et la pluie les fait produire selon son espèce. Je crois que le temps de la moisson est proche. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord là-dessus. Nous approchons du temps de la moisson. Maintenant, la semence a été plantée. C'est ce qu'il y a. Les semences ont été plantées. Oh Dieu! J'aurais bien voulu que vous voyiez ce qui vient de défiler devant moi. Les semences ont été plantées. Souvenez-vous, il y a un temps de semaille. Ensuite, un temps de la moisson. Ils le savent, ils l'ont dit très bien. Or, des semences de trois espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été planteur principal. Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes. La semence pentecôtiste a été plantée. C'est de l'organisation que je parle là. Et puis la parole a été plantée. Maintenant, il faudra comprendre, mes amis. Ceci, je n'en reparlerai plus, à moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisiez très bien ceci. Trois semences ont été plantées. C'est pour ça, c'est que les semailles sont, pour ainsi dire, terminées. Vous voyez, c'est terminé. Il faut que les semences aient été plantées avant que la pluie tombe. Pas vrai? Ou autrement dit, l'esprit, bon, vous ne serez pas d'accord là-dessus, mais attendez un instant. Voyez? Il faut que les semences aient été plantées et ensuite la pluie tombe pour arroser la semence, pas vrai? Maintenant, je voudrais, y a-t-il quelqu'un ici qui comprend l'hébreu, qui connaît des mots en hébreu? Très bien. Vous pourrez vérifier si vous voulez. Maintenant, on entend tellement dire, il y a tellement d'organisations et tout le reste qui disent « Nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison ». C'est absurde. Pas du tout. Pas maintenant. Oh. Quelque chose est en train de se passer. Je vois la chose qui défile devant moi. Cela a accroché l'esprit, voyez. Amen. Je sais que ceci est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Par une vision, voyez-vous, la chose prend forme. Tout simplement, elle vient. C'est à peine si je peux le regarder dans cette direction, vous voyez. Chaque fois que je regarde, je la vois qui apparaît devant moi, tout simplement comme ça, et puis ça s'arrête. Et en se déplaçant par ici, et en regardant par ici, j'essayais de regarder les gens assis autour par ici, et je regardais ailleurs, partout où je regarde, on dirait que c'est là, vous voyez, très bien. On va essayer de reprendre ça maintenant pour s'assurer que je l'ai bien exprimé. Je ne suis pas... Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé de ce côté-là. Regardez, je crois que le temps de la moisson est proche. Les semences ont été plantées. Les semences dénominationnelles des églises évangélistes, comme celles des baptistes, des presbytériens et des luthériens. Et les semences pentecôtistes ont été plantées dans l'organisation pentecôtiste par des grands hommes comme Oral Robert, Tommy Hicks et Tommy Osborne et de grands hommes de Dieu. Voyez, je crois que la parole de Dieu a été plantée sans mélange en dehors de toutes ces organisations. C'est ce qu'il y a. Voyez? Il faut que la semence ait la plante de la semence. Il faut qu'il y ait de l'eau sur la semence avant qu'elle puisse croître. Il faut qu'il y ait de l'eau qui tombe sur elle avant que la semence qui a été plantée puisse croître. Maintenant, eh bien, vous dites, Frère Branham, il y a eu, je sais, c'est vrai, je capte votre pensée maintenant. Voyez-vous, vous ne pouvez vraiment pas la cacher maintenant. Non. Très bien. Alors, faites attention à ce que vous pensez. Donc, il faut que la semence ait été plantée. Et ensuite, il faut qu'elle ait de l'eau pour pouvoir croître. Maintenant, vous dites, eh bien, Frère Branham, je vais exprimer la pensée de votre esprit là. On l'a eu, l'eau. Soit, c'est exact. Vous l'avez eu, l'eau. Avez-vous déjà planté des choux ou autre chose, ou des semences, ou quelque chose comme ça. Généralement, ils ont de l'eau là. Ils ont versé un peu d'eau et voyez, très bien. Bon, mais maintenant, attendez, qu'est-ce que nous avons eu au temps de la semaille, la pluie de la première saison? On vous dit, frère Branham, c'est absurde. Attendez un instant là. Prenez le terme première saison dans Joël 2 et vérifiez-le et voyez si le mot hébreu, référez-vous à hébreu et voyez si, ne, si vous avez le mot noté, M-O-U-R-E-H, mourait. Prenez le mot hébreu pour la signification. Voyez ce que le mot, ce que mourait veut dire. Enseignement. L'appui de l'enseignement a été dispensé. L'appui de l'enseignement dénominationnel a été dispensé. Un million de plus en 44, les baptistes, un tel et puis un tel, des membres dans l'Église, Oral Roberts et ses frères-là, avec le mouvement pentecôtiste, l'économique, le grand mouvement pentecôtiste qui a pris de l'extension, ils sont maintenant des millions. Voyez, c'est vrai, et la semence a été dispensée, et la parole pour la minorité, le groupe. Maintenant, regardez bien, maintenant, souvenez-vous, le mot M-O-U-R-E-H, mourait, veut dire enseignement, l'appui de la première saison. Il est dit l'appui, mourait, l'appui de l'enseignement. L'appui de l'enseignement a été dispensé. Billy Graham a eu un impact mondial. Les pentecôtistes ont eu un impact mondial et la parole a eu un impact mondial. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle attend l'appui de l'arrière-saison. C'est là qu'elle a produit ses fruits. Oh, J'espère que vous saisissez. Alors, l'espèce de la semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. Si les dénominations veulent avoir plus de membres, c'est ce qu'elles auront. C'est ce qu'elles ont eu. Les pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes, c'est ce qu'ils auront. C'est vrai, mais la parole va produire des fils de filles de Dieu. Oui, oui, c'est vrai. Ça aussi, ça va venir. Regardez bien. Regardez cette forte pluie de l'arrière-saison, ce qui doit être accompli, qu'ils allaient s'élever au-dessus de la muraille, la franchir, et qu'il serait une armée qui irait de l'avant. Attendez seulement un instant. Oui, l'espèce de la récolte que vous obtiendrez correspond à l'espèce de la semence que vous aurez mise dans votre champ. Très bien. Les deux espèces dénominationnelles, vous comprenez, les deux espèces dénominationnelles s'uniront pour aller à Sodome. Mais la parole restera avec les élus, la semence royale. Amen, voyez. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Deux anges sont venus là-bas, deux ministres, oints sont venus, descendus à Sodome pour essayer d'en faire sortir un homme qui était rétrograde, qui avait une petite parcelle de Dieu et sa femme, son épouse. Vous savez ce qui lui est arrivé et à elle, elle a été disgraciée. Et regardez ses filles, regardez ce qu'il a donné au bout du compte après qu'il a été sorti. Toujours comme un cheveu dans le pain, dans le petit pain, vous avez déjà... C'est vrai, excusez cette expression, mais vous savez, quelque chose de dégoûtant. Alors, cela a toujours été, nous le savons, nous allons, vous ne pouvez pas nier la parole de Dieu, mais il y a un qui reste, qui est resté avec Abraham, qui a donné un signe, oui, pas vrai. Très bien, très bien. Il y en a un qui est resté. Abraham a eu son groupe. Comment les a-t-on appelés? La semence élue, qui n'est jamais descendue là-bas, c'était des pèlerins. Ils faisaient route par ici, ils faisaient route par là, ils faisaient route par ici, ils faisaient route par là, interdénominationnel. Et quant à la dénomination, elle est descendue là-bas, elle s'est bâtie une ville. Et là, t'es descendu, le prêtre ou l'évêque, ou vous savez, ou ce qu'il pouvait bien y avoir là-bas. L'homme important, il était assis dans la ville. Il faisait le juge, celui qui dit l'évêque, le surveillant général. Non, nous ne voulons pas de ce genre de gars-là parmi nous. Non, monsieur, il est en désaccord avec notre théologie. Nous ne pouvons pas tolérer ça, et le voilà, le vieux Lot, voilà. Quelle était sa position? S'il ne fournit pas sa référence de notre groupe à nous, nous ne voulons pas de lui, du tout. Qui t'a établi juge de la maison de Dieu, espèce d'hypocrite? Oui, la parole de Dieu sera prêchée quand même. Saint-Martin est allé vers un groupe comme celui. Là, et un type n'a pas voulu se lever, avoir égard à lui après qu'il eut brisé les portes. Dieu a mis le feu à sa robe, au dos de sa robe, pour l'obliger à se lever et à saluer ce prophète de Dieu qui était entré dans la ville. Oui, c'est vrai, son siège a pris feu. Où il était assis, le trône sur lequel il était assis, c'est vrai. Vous avez vu l'histoire dans l'église. Oui, monsieur, il est descendu là-bas avec la vraie parole. Il est accompli des miracles et des signes. Il l'a prouvé par la parole que c'est ce qu'il était. Il avait leur propre évêque, ils avaient leur ce qu'ils voulaient, et c'est ça qu'ils voulaient, au point que c'est tout. Mais Dieu allait veiller à ce que peut-être qu'il avait quelques enfants élus là-bas et il fallait qu'ils aillent les chercher, c'est vrai. Donc, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'était passé? Maintenant, arrêtons-nous ici un instant. À un moment donné, Lot a eu le choix. Il aurait pu, lui aussi, être interdominationnel, pas vrai? À un moment donné, il a eu le choix. Il aurait pu être en route avec Abraham. Mais il est allé s'étouffer par l'amour du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Souvenez-vous, ceux qui étaient là-bas, dans Sodome, n'ont jamais vu un seul de ces miracles surnaturels. Ils ont été frappés d'aveuglement et la prédication de la parole aveugle les yeux des incroyants. C'est ce que Billy Graham et les autres ont fait. Ils ont aveuglé les yeux des incroyants qui, à la base, c'est vrai. Alors, vous ne pouvez pas nier ce que Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue. C'est ici, dans la Bible. Vous voyez, ce sera la même chose à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, regardez bien. Mais il y en avait un qui était la parole. Il était la parole et où était-il resté? Avec celui qui avait la promesse, l'élu. La parole est restée avec l'élu. Et la parole de Dieu aujourd'hui restera avec l'élu. La semence royale d'Abraham par la promesse. Quel genre d'œuvre a-t-elle faite quand elle a été manifestée à peu près 800 ans plus tard sous la forme de Jésus-Christ? Elle a fait les œuvres même que celui qui était là-bas avait faites, que la parole avait faites à la parole de la tente d'Abraham. Il s'est assis le dos tourné à la tente. Il a dit à Abraham que son nom était Abraham, non pas Abram, ce qui avait toujours été son nom, mais son nom était Abraham, parce que Dieu lui avait apparu quelques jours auparavant. Il lui avait annoncé que son nom était Abraham. Il a dit, « Où est ta femme? » Non pas Sarai, mais Sarah. « Où est ta femme? » Sarah. Comme s'il ne le savait pas. Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Je vais te visiter. » Je, le pronom personnel, « Je vais te visiter. » À la période de la vie, oh, tu auras ce bébé que tu as attendu, la pluie de l'arrière-saison va bientôt tomber. Il y a maintenant assez longtemps que tu gardes cette promesse en toi et que tu crois, tu attends un fils qui doit venir. Il va venir. Amen. Voilà la vraie église aujourd'hui. Voyez-vous, cette semence élue, tu l'as attendue. Je vais te l'envoyer. Amen. Celui qui a dit ça, c'était quoi? La parole. Oh, vous dites, mais non, la parole. Je vous demande bien pardon. Abraham l'a appelé Elohim. Ce qui est le Tout-Puissant, celui qui existe par lui-même. Il était la parole. Elohim. Vers qui est-il allé? Vers la semence d'Abraham. Maintenant, souvenez-vous, il n'a eu rien à faire avec ces dénominations. Il est resté strictement avec les élus. Il a prêché, c'est vrai, il a montré le signe, et Jésus a dit, maintenant attendez un peu, ensuite Sarah en elle-même, regardez bien la corruption, voyez-vous, pour avoir été incrédule à l'égard de cela, en fait Dieu l'aurait tué sur le champ, saviez-vous ça? Elle est sortie, elle a nié Abraham, elle a ri par en dessous, autrement dit, elle-même, or peut-être qu'elle n'a même pas esquissé un sourire. Mais dans son cœur, elle a commis, elle commise un peu. Moi, une vieille femme de 100 ans, 50 ans après la ménopause, la période de la vie, j'ai vécu avec lui pendant toutes ces années. Eh bien, il y a 25 ans que nous n'avons pas eu de relation conjugale, peut-être 30, voyez. Dois-je comprendre que j'aurai du plaisir avec mon Seigneur d'Abraham, son mari? Voilà le genre d'épouse que vous devriez être, qu'il faudrait que vous soyez. Paul a dit la même chose. Aimez votre mari à ce point-là et non allez hybrider quelque chose, voyez. Souvenez-vous vos pensées. Nous allons y venir cet après-midi, le saint, la pensée, donc, mais voilà. Elle aimait tellement Abraham qu'elle l'appelait son Seigneur. Mon Seigneur qui est vieux aussi et moi qui suis vieille et j'aurai de nouveau du plaisir avec lui et elle. Et l'ange a monté à Abraham qui était là, qui était la parole. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Alors il l'a appelée pour qu'elle vienne et elle a dit, je n'ai pas ri. Il a dit, au contraire, tu arrives et qu'est-ce? C'est la grâce, voyez, sur le champ, Dieu l'aurait tué sur le champ, mais il ne pouvait pas. Oh, vous voyez notre stupidité, il nous tuerait tous, sans exception. Mais il ne peut pas, pour tuer Sarah, il n'aurait été obligé de prendre Abraham, parce que Sarah était une partie d'Abraham. Il était un, par leur union. De même, de prendre l'Église et de la détruire, il ne le peut pas, parce qu'elle n'est une partie de lui-même. Christ, une partie de lui-même. La parole qui est faite chair. Oh, grâce étonnante, qu'il est doux le son, il ne pourrait pas le faire. Vous saisissez? Il ne pouvait pas la tuer. Il ne pouvait pas lui ôter la vie, parce qu'elle était une partie d'Abraham, voyez? Elle était chair de sa chair et os de son os. Quand nous faisons des erreurs, il ne faut dire, eh bien, j'ai essuyé un échec. Non, ce n'est pas ça. Abraham aussi a essuyé des échecs, voyez? Mais il ne pouvait pas prendre l'Église. Il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas vous ôter la vie parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle se manifeste. Elle démontre ce qu'elle est. L'amour, la joie, la paix, la patience. Toutes les paroles de Dieu, vous les croyez tous. Elles agissent. Dieu agit à travers vous, voyez? Vous êtes une partie de la parole qui est en Christ. Il nous est enseigné qu'il est la parole et nous sommes chair de sa chair et os de son os. Voilà. Maintenant, nous avançons vers quelque chose. Mouret. Mouret. La pluie de la première saison, la pluie des semailles a été dispensée. Or, qu'est-ce que s'est passé? La pluie de la première saison était plantée. La pluie de l'arrière-saison est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Sodome! Et ces sodomites ont brûlé. Abraham a reçu le fils promis. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. L'ivraie sera livrée en gerbe et brûlée. Le blé ira au grenier. Voyez, la pluie de l'arrière-saison est très proche. Je ne veux pas m'attarder trop là-dessus parce que je sais que j'ai quelque chose de vraiment bon plus loin là-dessus, voyez. Les deux dénominations vont s'unir. Les pentecôtistes et les autres, ils vont s'unir. Mais la parole restera avec la semence promise d'Abraham, comme elle l'a fait en ce temps-là. Jésus a dit, ce qui arrivera en ce temps-là, avez-vous des oreilles pour entendre? Des yeux pour voir? De l'intelligence pour comprendre? Jésus a dit, ce qui arrivera, n'est-il pas écrit? Ce qu'il dirait, s'il tenait ici ce matin, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il dirait ceci? N'est-il pas écrit que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera du même à la venue du Fils de l'homme? Ne croyez-vous pas les deux moissons qui prennent forme ici, qui reçoivent leurs dernières averses? Ils ont poussé jusqu'à cette dernière averse, voyez? Ensuite, qu'est-ce que s'est passé? Les anges du Seigneur ont disparu. Ensuite, il y a eu la pluie. Très bien. Maintenant, soyez très attentifs, là. Bon. Je crois que c'est de ceci que je parlais. Oui, du sujet de la pluie, de ce sera la pluie de l'arrière-saison. Tous les signes indiquent que c'est maintenant la fin. Tous ceux qui croient la parole de Dieu savent ça. Je vais m'arrêter sur ce point ici. Je vais être obligé de mentionner un nom. Je ne veux pas manquer de délicatesse, mais il faut que j'ai dit à Dieu que je ne prendrai pas de gants, que je viendrai ici et tout simplement, j'allais exprimer précisément ce que j'ai su toute ma vie. Et puis, s'il y a quelque chose ici à la fin, je vais être obligé de retenir. Je vais vous exprimer tout ce que je pourrai, autant qu'il me permettra de le faire d'abord. Madame Wood est au courant que, après que j'ai eu reçu ceci, eh bien, plus de pages que ce que j'ai ici, le Saint-Esprit a dit, ne fais pas ça. N'est-ce pas que je vous ai appelé, Madame Wood, et il m'a dit de ne pas faire ça. Alors, je suis retourné prier cette nuit-là, il est venu à moi dans une vision, il m'a dit, va faire ceci, prends ceci et place-le là, parce que ceci, ils ne vont pas le comprendre, ce n'est pas encore l'heure, ceci, place ceci ici. Et c'est ce que j'ai fait, c'est vrai, voyez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, voyez, très bien obéir. Bon, maintenant, regardez, nous sommes, pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin, même la Vierge, la parabole de la Vierge sage et de la Vierge folle est d'actualité chez nous maintenant. Regardez, la Vierge folle, excusez-moi, la Vierge folle, c'est elle qui sera l'hybride, voyez. Elle avait la semence sans avoir l'huile, l'humidité pour la faire croître. Bon, Qu'est-ce qu'elle a fait? Les deux groupes, le groupe pentecôtiste et le groupe dénominationnel du monde, les groupes évangéliques émergent ensemble, voyez, et quel but? Ils s'en vont à Sodome, voyez, remarquez, pour y récolter cette moisson, remarquez la Vierge folle, l'avez-vous remarqué? Et jusqu'à... Et jusqu'à l'un de mes grands amis, vraiment un érudit, un homme capable, intelligent, un pentecôtiste brillant, je remarque que mes frères, des hommes d'affaires chrétiens, poussent des cris de louange vers Dieu parce qu'il y a parmi eux des prédicateurs épiscopaux, des prêtres catholiques. Et j'en suis à me demander si ces hommes-là sont profondément endormis. Vous rendez-vous compte? Ils disent, « Oh, on n'a jamais rien entendu d'aussi extraordinaire, Frère Branham. » Mais ces gens qui sont épiscopaux, ils sont venus ici, ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont fait ces choses, gloire à Dieu, je vous le dis, c'est bien simple. Mais leurs églises en ont été révolutionnées. Oh là là, frère, ne savez-vous pas ce que c'est ça? C'est le signe au moment où la Vierge sage veut avoir de l'huile, ou plutôt où la Vierge folle veut avoir de l'huile pendant qu'elle est en train d'en acheter. C'est à ce moment-là que l'époux vient. Oh, vous les pentecôtistes, qu'est-ce que vous avez? Enfin, vous ne pouvez pas le voir, à moins que Dieu vous le montre. C'est sûr et certain, si vous n'avez pas été prédestiné à cela dès votre naissance, vous allez passer à côté. Heureux sont les oreilles qui peuvent entendre, heureux sont les cœurs qui peuvent comprendre, car le temps est proche. Tous les signes l'indiquent, voyez. Regardez quel genre de réveil ils ont. Un grand réveil qu'ils ont eu. Ça semblait bien beau, n'est-ce pas? Vous dites, Frère Branham, maintenant, vous avez mis sur la corde raide. Je voulais justement que vous en arriviez là. Comment distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux? Soumettez-le au test de la parole. C'est comme ça qu'on peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est ça. Soumettez-le simplement au test de la parole. Voyez ce qu'il dit la parole, n'importe quel esprit. Voyez ce qu'il dit de la parole. S'il nie la parole, s'il n'est pas de Dieu, voyez. Peu importe ce que c'est, s'il nie la parole, il n'est pas de Dieu. Regardez, soumettez-le au test de la parole. Et croyez ce qui est, voyez ce qui arrive. Jésus nous a prévenu au sujet de ces choses. Matthieu au chapitre 24 et au verset 35, je voudrais prendre cette référence-là à cause des bandes. Un instant maintenant, plus qu'une vingtaine de minutes et nous laisserons partir. Et je suis sûr que nous en aurons même pas vu le tiers, mais c'est ici, il faut quand même que je le lise. Voyez, Matthieu 24, 35, maintenant, écoutez très attentivement ce que Jésus a dit maintenant. Ceci, comme il nous avait dit que les deux esprits seraient tellement proches que ça séduirait même les élus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que ça sera vrai? Oui, monsieur, Matthieu 24, 35 dit, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Vous voyez maintenant que les deux esprits soient tellement proches, alors il doit en être ainsi. Il doit être ainsi. La dénomination pentecôtiste doit avoir un comportement tellement proche du vrai que Jésus a dit qu'il n'y aurait que les élus qui ne seraient pas séduits. Ça me crève le cœur. Mais mes frères dénominationnels, ne voyez-vous pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Voyez? Tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Mais quant aux élus, ils ont été élus à la vie éternelle. Bon, ce point-là, on a vraiment le traité, on va le traiter tout à l'heure. Et comment on va vraiment attaquer le sujet, voyez? Souvenez-vous, il n'y a pas les élus, c'est la seule espèce qui le saisira. Eh bien, vous dites, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas vous qui avez raison? Alors, éprouvez-moi par la parole. Venez éprouver votre dénomination par cette parole. Voyons qui est dans le vrai et prouvons cette chose. Dites la vérité. Vous dites, ça ne change rien à l'affaire, ça. Qu'on soit baptisé de cette manière ou de celle-là. Oui, ça change quelque chose. C'est ce que Satan avait dit à Ève. Quelqu'un avait dit, avait déjà été baptisé dans Acte 19 et c'est un bon chrétien qui les avait baptisés. En plus, Jean-Baptiste, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Il a dit, alors, comment avez-vous été baptisé? Si vous l'aviez saisi, vous auriez su ce qu'il en était, voyez. Mais comment avez-vous été baptisé? Il a dit du baptême de Jean, le grand homme qui a baptisé Jésus. Paul a dit, ça ne marchera pas maintenant. En effet, Jean n'a baptisé que pour ramener la repentance et non pas pour la rémission des péchés. Le sacrifice n'avait pas été offert. Et sur ces paroles, ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit, Dieu avait dit, ôte tes souliers, Moïse. Il aurait dit, tu sais, je les ai attachés un peu serrés ce matin, Seigneur. Je vais témoigner plus de respect. Je vais ôter mon chapeau. Ça n'aurait pas marché. Il n'a jamais dit chapeau. Il a dit souliers. Et c'est bien le diable qui essaie de badigeonner cela en blanc, comme il l'avait fait dans le cas de notre mère Ève. Et c'est chaque parole qui est la vérité, telle qu'elle, comme Dieu l'a écrit là. C'est comme ça que je le crois. Maintenant, allez-y. Si vous dites, eh bien, nous avons la vérité, eh bien, allez-y. Alors, c'est en ordre. Si vous êtes aveugle à ce point, allez-y. Continuez à tâtonner dans les ténèbres. C'est cette parole qui va vous juger, frère, et non votre credo. Oh, ça semble beau. Bien beau, moi. Oui, frère, ça semble bien beau. Vous dites, eh bien, frère Branham, attendez une minute. Dieu soit béni. Je l'ai vu. Allez là-bas et guérir les malades. Oh, c'est sûr. Oui, monsieur. Je les ai vus parler en langue. Oui, monsieur. Moi aussi, je ne l'ai jamais cru. Il n'y a personne qui puisse le prouver par la parole de Dieu, que le signe initial du Saint-Esprit soit le parler en langue. Je veux que l'homme vienne le prouver. J'ai mis au défi de le faire depuis le début. Je crois parler en langue. Oui, monsieur, mais j'ai vu des démons parler en langue, des magiciens et des sorciers parler en langue et donner l'interprétation, alors qu'ils nient l'existence même de Jésus. J'ai vu des hommes parler en langue, alors qu'ils vivaient avec la femme d'un autre debout, elle me regardait en face et devant lui. J'ai eu une vision et je l'ai prise à part et je lui ai fait attester que c'était vrai. Et vous appelez ça le Saint-Esprit? Oh oui. Vous dites, eh bien, frère Branham, ne croyez-vous pas que le Saint-Esprit parle en langue? Oui, monsieur, mais soumettez-le au test de la parole. Vous voyez, Jeannès et Jambres ont opéré des miracles. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Jeannès et Jambres, quand Moïse est descendu en Égypte, tout ce que Moïse a produit comme signe, Jeannès et Jambres, ces deux sorciers, pouvaient produire la même chose. Deux démons. Moïse disait des puces. Il disait des puces. Moïse disait un bâton par terre. Il disait un bâton par terre. Un serpent. C'est vrai. Ils pouvaient opérer des miracles. La Bible dit que dans les derniers jours, des démons s'élèveraient opérant des miracles et qu'ils séduiraient les gens. C'est très dur à entendre, frère, mais il faut que vous le sachiez la vérité. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci et cela et fait cela, ainsi de suite en ton nom? Il dira, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Quelque chose dont vous savez que ce n'est pas bien. Et vous le faites quand même. Vous savez que c'est la parole de Dieu est vraie. Pourquoi faites-vous l'hypocrite? À cause de votre organisation. Alors, vous en prenez un peu ici, mais vous ne voulez pas prendre le reste. Ouvrier d'iniquité, il a dit, retirez-vous de moi et je ne vous ai jamais même connu. Or, ça, c'est, vous devez vous frayer un chemin à travers l'enfer. Soit ici, soit dans la vie à venir. Alors, voyez maintenant, souvenez-vous, c'est vrai, ça c'est ce que Jésus a dit. Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, souvenez-vous. Et la Bible dit que de même qu'eux s'opposèrent à Moïse, dans les derniers jours, ces mêmes esprits-là apparaîtraient de nouveau. Qu'est-ce? Juste avant la libération des gens, alléluia! Le moment de la libération est arrivé! Jésus a dit dans Matthieu 24 qu'il séduirait même les élus, si c'était possible. Il n'y a que les élus qui le saisiront, seulement un ici et là, même les élus, si c'était possible. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la parole, en ce qui concerne la vérité et la parole de la vérité, pas vrai? Ce n'est pas Du lait écrémé, ça, mes amis, voyez, regardez. Regardez, la Bible dit, Jésus a dit qu'il serait tellement proche qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Cette semence va tomber là parce qu'elle est prédestinée à y tomber. Les semences ont été dispensées. Les dénominations ont semé, la parole a été semée, voyez. Et Jannès et Jambres, eux, ces gens-là de la Bible dit que ces démons s'élèveraient dans les derniers jours et qu'ils séduiraient les gens par les miracles et les signes qu'ils pourraient produire. Comme allez-vous faire la différence? La parole, même dans l'Ancien Testament, il est dit, s'ils ne parlent pas selon la loi des prophètes, il n'y a aucune vise en eux. S'ils disent une seule chose. Alors, montrez-moi une seule personne qui ait jamais été baptisée au moyen du titre du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, pourquoi le faites-vous? Un credo. Des hybrides. Des enfants morts. Des enfants bâtards. Deux fois morts. Déracinés. Et toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit Jésus. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai pris position comme je l'ai fait. Montrez-moi un seul passage à l'appui. Ce n'est pas une malédiction pour une femme de se couper les cheveux. Voilà. Après ça, vous me cherchez querelle. Après ça, les gens disent, Frère Branham est un prophète. Oh, croyez-le, tant qu'il parle aux gens, qu'il leur dévoile leurs péchés, ces choses comme ça. Mais quand il se met à enseigner, n'allez pas croire ça. Pauvre hypocrite, tu ne connais rien du tout. La Bible ne dit-elle pas, la parole du Seigneur a été adressée aux prophètes? Je ne prétends pas être prophète, je ne suis pas un prophète, mais c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit ce que vous avez dit. Et ensuite, vous faites volte-face pour dire une chose pareille. N'allez pas le nier, j'ai même la bande où vous l'avez dit. Vous ne saviez pas ça, hein? Je voudrais bien que vous niez l'avoir dit une bonne fois. C'est tout ce que je voudrais, que vous le niez pour que votre propre voix vous le fasse entendre de nouveau. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, des faiseurs de miracles. Mais où est la parole, la vraie parole? Il y avait des hommes qui opéraient des miracles, il y avait des hommes qui pouvaient faire tous les genres de miracles, mais il y avait deux prophètes loin qui étaient là, ou un prophète et son compagnon. Ils avaient un prophète loin du nom de Moïse qui était là et il avait l'incisé le Seigneur. À la fin, tout a été manifesté avant la délivrance, pas vrai? Les prétendus faiseurs de miracles se sont tous éteints. Et ce qu'ils essayaient de faire, ils essayaient de fabriquer une pluie de l'arrière-saison. C'est absurde. Voyons, la pluie de l'arrière-saison se répandra dans le monde entier, frère. Il y aura une pluie de la première saison. Des paroles ont été semées, c'est vrai. Maintenant, vous verrez ce que produira l'appui de l'arrière-saison. Vous constaterez qu'il y aura une affiliation. Les pentecôtistes et tous les groupes se réuniront et fermeront leurs portes. Et ceux qui ne voudront pas écouter, vous n'aurez même pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est vrai, c'est ce qui viendra. C'est là qu'il se manifestera. C'est là que vous verrez une pluie. Oh là là, ne bougez pas, restez tranquille. Oui. Mais la parole était avec ce prophète loin parce que la parole du Seigneur est venue au prophète. Or, Dieu ne change pas son système. Non, non, non. Il n'a jamais changé son système. Or, qu'en est-il? Encore là, il en avait trois. Jannès et Jambres sont allés là-bas accomplir des miracles, comme ceux qui étaient descendus à Sodome, qui avaient fait un seul petit miracle, aveugler les gens, voyez là-bas. Il y avait Abraham, loin, avec Dieu, et avec sa compagne Sarah, pas vrai? Il y avait Jannès et Jambres qui accomplissaient des miracles, tout ce que Moïse pouvait produire en signe et des miracles, comme signe. Là, il y avait la parole loin, le prophète avec son aide, son assistant. Oh, comme j'aimerais pouvoir prêcher là-dessus maintenant pendant deux bonnes heures. Très bien. Dans Genèse 1, souvenez-vous, chaque semence selon son espèce, il doit être ainsi pour toujours. Il y a tous ces types. Un homme qui pourrait croire que l'Église passera par une période de tribulation, je me demande bien où vous pourriez trouver une semence pour ça, alors que même, eh bien, vous dites, je crois qu'il y ait dit qu'il ferait ceci, c'est bien. Avez-vous remarqué où les pluies étaient tombées là-bas à l'autre époque, où elle est tombée? Noé était dans l'arche avant que le jugement éclate. Sodome, Lot était sorti de Sodome avant que ça se produise. Voyez, c'est sûr. Nous ne passerons pas par la période de la tribulation, pas du tout. Vous allez partir dans un enlèvement, un de ces jours, certainement. Qu'est-ce que nous pourrions... Pourquoi auriez-vous à être jugé? C'est lui qui a subi ma tribulation, Jésus-Christ. C'est là que ma tribulation a eu lieu, en plein là. Oui, je l'ai accepté, lui, et je suis libre. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, c'est vrai. Moïse était bien à l'abri avec Israël pendant que la tribulation avait déversé, c'est vrai, très bien. Chaque semence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur terre. Il l'a exprimé en Jésus-Christ. Qu'en était-il? Dieu était en Christ. Voilà un homme selon son espèce à lui. Voyez, quand Dieu, qui est la parole, combien savent qu'il est la parole, quand la parole était en Christ, un homme, un humain, un homme, qu'elle s'exprimait à travers lui, c'est Dieu la parole qui s'exprimait en Christ. Et Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image, et c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui, le séminaire et le couvoir d'incubation que produisent un tas d'hybrides, voyez-vous, les écoles. Mais quand Dieu appelle un homme, il est à son image à lui, la parole rendue vivante en lui. C'est vrai, le voilà, voilà l'homme de Dieu, l'homme à son image, à son exacte ressemblance, et Jésus l'a dit, il fera les œuvres que moi je fais. Donc Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce, son espèce, son espèce. Qu'est-ce que c'est? La parole. Il est la parole. Alors si un homme nie la parole de Dieu, comment peut-il être à l'image de Dieu? Posez donc la question. Posez-vous la question. Comment pouvez-vous être à l'image de Dieu et nier la parole de Dieu alors que la parole est l'expression même de son être? Oh, ils disent, ce n'est pas ce que ça veut dire. L'expression même de Dieu qui dirait, « Oh, je l'ai dit, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je me suis trompé là. Je me retracte. Ça, c'était pour une autre époque. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, miséricorde, saleté. Saloperie du diable qu'il a fait avaler à Ève, mais qu'il n'essaie pas de faire gober ça aux élus. Non, monsieur, ils ne croiront pas ça. Venez donc vous joindre à notre groupe. » Vous y joindre, pas du tout, vous devez y naître, pas vous y joindre. Une nouvelle créature, oui, à son image à lui, de son espèce, pour être sa parole exprimée sur terre. Or, Jésus était la parole exprimée de Dieu, croyez-vous ça? Alors que devons-nous être des fils de Dieu, nous aussi par la parole exprimée dans l'Église, continuons à exécuter, c'est-à-dire le corps mythique de Christ, continuons à exécuter les œuvres même que Jésus a fait quand il était ici sur terre, voyez? Et voilà l'espèce qui est selon son espèce à lui. Bon, on trouve l'espèce luthérienne selon le luthérien, l'espèce méthodiste selon les méthodistes, l'espèce catholique selon la catholique, l'espèce pentecôtiste selon son espèce à elle, l'unitaire selon la sienne, la trinitaire selon la sienne. Par contre, si vous êtes de l'espèce de Dieu, ça, c'est autre chose, voyez-vous, vous êtes l'expression même de la parole qui se manifeste, oh là là, mais forcément, si l'eau tombe sur elle, elle ne pourra pas faire autrement, donc lui donner une naissance, un type, et qu'il, après Dieu, a fait l'homme à son image, là, je pense que je n'aurai vraiment pas assez de temps pour exprimer ce qui suivait, ici, quelque chose d'épatant, mais je veux que pas que toutes les paroles de Dieu sont épatantes, voyez-vous, et regardez-moi, donc ça, où j'avais prévu de m'arrêter à l'heure du repas de midi. Il me reste encore tout ça et j'en ai à peu près le sixième. Très bien. Est-ce que je peux, tenons-nous-en donc là? Qu'est-ce que vous en dites? Et, oui, combien peuvent revenir cet après-midi? Levez la main. Oui, bon, je veux pas vous retenir trop longtemps. Je ne voudrais pas vous épuiser. Maintenant, les frères qui enregistrent, laissez tourner les bandes encore un instant et je vais m'occuper moi-même de couper ça dans un instant. Bon, très bien. Maintenant, la dernière chose que nous avons exprimé, c'est que Dieu a fait l'homme à son image à lui, selon son espèce à lui. Dieu a fait un homme selon son espèce. Vous saisissez? Un homme selon son esprit, mais quelle espèce d'homme était-il? Si vous regardez en arrière pour voir ce qu'il en était, il était fait chair. C'est cette espèce d'homme-là qui l'a fait, pas vrai? Un homme selon son espèce. Amen, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est ça, l'homme de son espèce. Mais une autre occasion, à un moment donné, il a dit à un homme, « Tu es selon mon cœur, un homme selon mon cœur. » David, vous en souvenez? L'Esprit de Dieu est en David. David, un roi rejeté, le loin, est toujours rejeté. David, le roi rejeté, est monté sur la colline car son propre peuple, je vais prêcher là-dessus pendant les 3 prochaines minutes, quand le propre peuple de David, qui aurait dû être sa propre espèce, l'a détrôné, son propre fils, qui l'a chassé du trône. David est allé là-bas et l'un d'eux est même allé jusqu'à cracher sur lui, sur ce roi ouin. Ce type-là est arrivé estropié par sa doctrine. La Bible dit qu'il était estropié, vous savez, et il le suivait en crachant sur ce roi. Observez Christ, on crachait sur lui, le messager qui était à ses côtés, qui représentait un ange, et a dédaigné son épée. Il a dit, « Ne faut-il pas couper la tête de ce chien et cracher sur le roi? » Un ange a dit, « Je le tue sur le champ. » David a dit, « Rengaine ton épée. Je dois faire ceci. » Il est monté au sommet de la colline de Jérusalem. Il a regardé en bas, un roi rejeté. Et il a pleuré. 800 ans plus tard, le fils de David, l'esprit qui était partiellement en David, s'est trouvé sur la même colline, un roi rejeté, sur lequel on a craché et dont on s'est moqué, pas vrai? Je peux imaginer Dieu qui dit, l'ange qui marchait avec lui là-bas, quand il est monté au calvaire comme ça, ne doit-on pas couper la tête de ce chien? Laissez-le, oh là là, il viendra un temps, mais alors David à son retour, ça a été une toute autre histoire. David est revenu porté en triomphe. Cet autre a accouru, il implorait miséricorde à grands cris, bien sûr. Laissez-le, un jour il viendra avec une puissance. À ce moment-là, c'est eux qui riaient, mais ça va changer de direction, c'est vrai, laissez-le, c'est tout. Mais Dieu a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Quand Dieu crée un homme, il est de son espèce. David a dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi, Seigneur. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de l'appui. Tout irait bien pour David si seulement il pouvait recevoir cette pluie, mais le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Il avait la parole et la parole était en lui. Il pouvait le reconnaître. Il a dit, je l'ai caché dans mon cœur, Seigneur. Il ne s'épanouira pas. Il n'agira pas comme elle le devrait, mais je l'ai caché là, Seigneur. Je l'ai caché là. Par contre, quand Jésus est venu, lui, il était la parole manifestée. Alors la vie du germe a été retirée de là. Et maintenant, elle revient sur la parole et sur la coupe de David. David débordait qui devenait faire le nôtre. Assurément, sans l'Esprit, amen, n'est-il pas merveilleux? L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux? Jésus, mon Sauveur, est merveilleux. Je l'ai vu, entendu. Dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux. N'est-il pas? Combien l'aime? Combien l'aime? Lui, oh là là, merveilleux. Oh, c'est dur à attendre, mon ami. C'est très dur à entendre. Je ne veux pas être dur. Ce n'est pas ce que je veux. Oui, j'espère que vous le comprenez, vous voyez. Mais aujourd'hui, j'exprime ouvertement pourquoi j'ai fait ces choses que j'ai faites. Maintenant, en dernières analyses, avant que nous nous séparions pour le repas du midi, je dirais ceci. Je veux que vous sachiez que c'est ce qui a été mon motif et mon objectif, c'est la parole de Dieu. Mon motif, c'est de lui être agréable. Je ne peux pas écouter tout ce qui se dit et croire la parole de Dieu. Je ne peux pas non plus écouter tout ce qui se dit et être agréable à Dieu. Mon motif, c'est de connaître sa parole et d'être agréable à Dieu en le servant selon sa parole. Et ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre. Or, chaque personne ici présente qui est née de l'Esprit de Dieu, qui a fait partie de les élus, elle a peut-être déjà été méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste ou quelque chose d'autre, quelque chose. Bon, ça, vous le savez, vous le savez. Et donc, vous voyez, quand on dit « aller vers eux », et ça, il faut le faire. Il y a quelqu'un là-bas. Si vous semez la semence un jour, il y aura une moisson, elle tombera. Certains vont passer par là et diront, « Oh, ce n'est pas rien d'autre qu'un... C'est un imposteur, non... » N'ont-ils pas dit la même chose de notre Seigneur? Ça ne veut rien, ça. Oh bien, alors pourquoi ne va pas le vérifier avec moi? Rien d'autre qu'un imposteur, voyez? Alors vérifiez-le par la parole, voyez? Ce n'est pas la parole, alors c'est bel et bien une imposture. Voyez, alors, si c'est votre théologie qui diffère de la parole, alors elle n'est pas bonne, voyez? Bon, d'autres vont passer par là, ils diront, eh bien, sais-tu quoi? Je crois que je vais essayer ça pendant quelque temps. Vous allez suffoquer, c'est vrai, voyez, mais quand vous dites vraiment de tout ce que vous dites, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, ce n'est plus moi, mais c'est toi, voyez, alors elle produira au centuple. Est-ce que vous croyez ça? Moi aussi, je crois ça, avec la liberté et de la justice pour tous, c'est vrai. Oui, monsieur, je promets de fidélité à mon Seigneur, voyez-vous, de prêcher sa parole et de m'en tenir à sa vérité. Même si cela doit me coûter la vie, je continue quand même. En effet, ce sera quelque chose de glorieux pour moi, non pas de veiller que je veuille le faire, mais s'il me fallait le faire, je mêlerais mon sang à cette terre comme ceux qui y ont mêlé leur sang pour la même cause, comme ceux qui sont morts dans la fosse au lion, comme ceux qui sont morts sur les croix, ceux qui ont été sciés, qui ont été expulsés de leur organisation, qui allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, qui étaient dénués de tout. Ce serait un grand privilège pour moi, comme les disciples de Christ qui s'en sont retournés et qui regardaient comme un sujet de joie complètement d'avoir pu porter l'opprobre jeté sur son nom. Ils ont pu endurer ça pour lui. Ces petites souffrances, je ne veux pas souffrir. Personne ne veut souffrir. J'aimerais donner la main à toutes les dénominations. Disais, frère, allons-y. J'aimerais faire ça si je le fais. J'ôte de ma main. Ma main de la sienne, loin de moi cette idée de faire une chose pareille. Mais si je dois rester seul, je resterai seul avec la parole, en effet, comme Eddie Perronet le disait, Christ est le roc où je me tiens, tout le reste est sable mouvant. Et Christ est la parole au commencement. Et qu'est-ce que c'est? Chaque parole qui est produite, chaque semence qui est produite selon son espèce. La semence dénominationnelle produira selon son espèce. L'organisation pentecôtiste produira selon son espèce. Celle des baptistes produira selon son espèce. Qu'est-ce que c'est? L'organisation constamment. Nous allons monter cet après-midi, Dieu voulant, comment elles ont commencé et quelle a été la cause et où il est dit dans la Bible que ce qu'elles feraient et comment elles finiront exactement ce qu'elles font à la fin. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont dans leur voiture, beaucoup d'entre vous qui sont dans leur voiture, qui n'ont pas pu entrer, vous écoutez grâce à un microphone, et que Dieu vous bénisse et que vous êtes debout le long des murs et que vous êtes restés assis ici ce matin. Et j'espère bien que par la grâce de Dieu, je n'ai offensé personne, mais j'ai voulu bien me faire comprendre. Maintenant, si vous croyez la même chose que ce que j'ai dit ce matin, ne prétendez pas que c'est... cette même position. Bien sûr que oui. Courbons la tête un instant. Bienveillant Père Céleste, nous voulons pas même mettre fin à la réunion, mais simplement faire une pause pour prendre un peu de repos pendant quelques instants. Et maintenant, ces semences qui ont été semées ce matin, puissent-elles être tombées dans une bonne terre fertile? Puissent-elles produire en abondance, Seigneur, la vie éternelle en abondance? Maintenant, nous prions, Père, que ces semences qui ont été semées restent là à attendre que la tombe l'appui de l'arrière-saison, à attendre ceux qui s'attendent à l'Éternel et renouvellent leur force. Ô Dieu, puissions-nous ne pas devancer la parole, rester là avec la parole, accorde-le, Seigneur, bénis-nous maintenant. Et ceux qui partiront manger, je te prie de leur dispenser leur repas et de bénir leur nourriture, de leur donner des forces, de leur ramener cet après-midi très tôt, Seigneur, puissent-ils être assis dans le temple, assis ici, attendre, et puisses-tu m'aider comme je vais en prière pour revenir ensuite. Je te prie de me joindre donne de nouveau de cet après-midi. Accorde-le, Seigneur, afin que je puisse porter aux gens ce que je crois être la parole. Accorde-le, Père, et je te prie de bénir notre cher pasteur bien-aimé, Frère Neville, notre précieux frère. Dans quelques minutes, il ira dans l'eau ici avec un groupe de gens pour les baptiser. Et Père, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a été baptisé autre que par le baptême du chrétien, selon que ton grand serviteur Paul, il a déclaré qu'il avait la parole de Dieu en lui, il a déclaré que si un homme ou un ange, ou si même un ange descendait du ciel, comme Satan qui avait la forme d'un ange qui descendait et disait quoi que ce soit d'autre que ce que lui avait dit, qu'il soit anathème, Père, nous savons ce que ça c'est écrit dans les Écritures et que je prie, Père, que ce soit descende profondément dans leur cœur, que c'est Paul lui-même qui a obligé les gens qui n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. C'est lui qui leur a ordonné de se faire rebaptiser, que ce soit reçu par les gens, Père, qu'ils prennent conscience alors qu'il y aura ce service de baptême, qu'ils prennent conscience que c'est la vérité, sachant qu'ils ne peuvent pas fournir une seule parole de l'Écriture à l'appui de leur conception trinitaire de trois dieux. Père, bien sûr, nous croyons que tu es une trinité de trois fonctions, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, nous le croyons très certainement, Seigneur, mais ce ne fait pas de toi trois dieux. Ça fait de toi un seul Dieu qui a exercé trois fonctions, le Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom qui a été donné à ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est ce qui est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Père, les gens le voient et qu'ils se montre obéissant par le baptême d'eau pour la rémission de leurs péchés. Maintenant que ces quelques mots sur le baptême descendent profondément dans le cœur de chacun, car nous ne savons pas combien de temps il nous reste, Père, c'est très proche. L'ennemi dont nous avons prévu parler cet après-midi s'installe de plus en plus profondément et de plus en plus audacieux depuis qu'ils sont montés sur le trône et gagnent toujours de plus en plus de terrain. Seigneur, nous le voyons partout. Par le communisme, Seigneur, que les gens puissent le comprendre, que c'est le romaniste, la vieille mère prostituée avec son impudique, et nous les voyons, Seigneur, en train de prendre forme, une image à la bête, et nous en sommes là. Dieu notre Père, sois miséricordieux maintenant que nous étions tous à l'abri dans l'arche, nous sommes prêts à l'appui de l'arrière-saison, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont ici dans le bâtiment, maintenant, si vous voulez sortir doucement, aller manger quelque chose, très bien, et si vous voulez ensuite, revenez aussi vite que possible après le service. Maintenant, levons-nous un instant, levons-nous ensemble. Combien croient la parole du Seigneur? Levez la main. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Seigneur Jésus, bénis ces mouchoirs, transmets-les, Seigneur, l'onction de l'Esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et la deuxième partie sera faite live sur Sierra Vista. Elle ne sera pas préenregistrée. Shalom.